You got tears in your ears where you've been lying down when you cry. Oh, why? Why you gotta always cry? You fought at me sad. You fought at me mad. You fought. You fought. Get into the line. I really think that I can put up quite a fight.
Attention les amis, on arrête la musique. Regardez, il est là. Il est en tout petit pour l'instant parce que je veux faire monter le. Mais là, il se demande, mais c'est pas lui, regarde. Non, il est tout... non, regarde, il est tout petit. Hein. Il se demande, est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que je souhaite ? On voit pas très bien. Ah, suspense. Est-ce qu'en fait, non, gros mytho depuis des mois. C'est pas du tout Franck Gaston Bide. C'est un garçon qui travaille à côté, là, qui lui ressemble. On voulait vous faire la blague, c'est le truc. Attention, c'est lui !
C'est bien moi.
Oh, c'est lui.
Bonsoir à tous.
J'adore le bleu de cette casquette.
Ouais, je me suis dit là au moins il y a pas de doute, c'est bien moi.
C'est lui, voilà. Incroyable. Alors, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire dans tous les sens. Comme d'habitude, je vais vous laisser travailler, mais on va peut-être un petit peu expliquer Twitch à Franck parce que je crois que attention, c'est un moment important que c'est le premier stream de Monsieur Franck Gaston Bide.
Et oui, c'est mon dépucelage.
Et
merci beaucoup. J'espère que vous allez être gentil avec moi parce que du coup, bah, je suis un peu stressé et je ne connais pas bien les codes. Voilà. Donc, je suis en formation ce soir.
Ah. Bon. Donc, comme c'est quelqu'un de très perfectionniste, Franck, comme toute sa carrière l'a montré, et on va pouvoir en discuter ce soir, bah, du coup, à mon avis, il se met un petit peu la pression tout seul. Mais il n'est pas impossible, mais je ne dis rien, je ne donne aucune info, je ne lis pas, je ne suis au courant de rien. Il n'est pas impossible que Franck dans les jours, les semaines qui viennent, je ne sais pas, les mois, je ne sais pas, fasse une apparition sur une autre chaîne Twitch. Mais
si celle-ci se passe bien. Uniquement si le dépucelage se passe bien.
Donc alors, le streamer ou la streameuse qui va te recevoir va être super content d'apprendre que tu annules parce que ça s'est pas bien passé, mais ça va très très bien se passer. Tiens, regarde, on est hyper gentil, dit Métrosis, jus de pomme. On est gentil, Franck. Samuel pince Franck pour voir s'il est réel. Samuel pince. Non, je ne veux pas le pincer. C'est le vrai. Les codes, il y a quelqu'un qui nous donne les codes. Les codes, le chat a toujours raison, ça c'est faux. T'inquiète, il y a que des amis ici, nous sommes toujours gentils. Le pire, c'est que c'est vrai.
Bon, ça me rassure. Et je voulais d'abord commencer par m'excuser auprès de toi, Samuel, parce que je devais venir une première fois et on ne s'est pas organisé. Et maintenant, je suis là et je suis très content.
Attends, t'as un agenda de ministre ?
Oui, mais tu mérites qu'on fasse de la place.
Tu fais tellement de choses aussi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai très envie de te recevoir, mais je te dirai pourquoi dans un instant. Quel duo à 35 ans, vous êtes encore au top ? Alors, Franck a peut-être 35 ans. Franck,
j'ai un peu plus.
Ouais, moi, j'ai beaucoup plus. Je crois que je suis le plus vieux de la pièce.
Combien, toi ?
Large. Moi, je suis dans 71. Attends, j'ai passé
ouais.
Je sais.
Là, j'ai rien pour te défendre.
Je sais. Mais merci pour les 35 ans, ça fait toujours super plaisir. Allez, je vous lis un petit peu parce que ça fait plaisir, ça met une bonne ambiance. Le film sort quand ? Les bonnes questions, très très bien. JMP, on va en parler dans un instant. Alors, attention aux infos de chat. Très bon conseil de GR95, c'est-à-dire que le chat, il est souriant, il est sympathique. Parfois, il dit plein de conneries aussi. Hein.
Ouais,
donc,
d'accord.
Faut pas prendre. Sam, il est gentil, c'est vrai, on est à la cool.
Je lis tout quand même, ou il faut pas que je lise ?
Ah, si, tu lis tout. Tu lis. Et puis, t'as le droit de les engueuler aussi parfois. Hein. Lilou Rafou, ces hommes plutôt sexy, on va passer une belle soirée.
Très bien.
Ça, c'est nous, c'est vous. Merci pour le pluriel.
Camille F, c'est bienveillant, c'est bien. Si on est
c'est
bienveillant, c'est
tu
bien.
Tu vois.
Bon, cela dit, on peut quand même se dire des choses, on peut quand même tout se dire, hein, même si c'est pas totalement bienveillant. Hein,
ouais, mais bon, ça va. Crab Kit. Le dépucelage, c'est rarement bien, t'inquiète. oui, c'est... Ah, tiens, ah ouais. Ah ouais, oui. Bon, on va pas rappeler des souvenirs, mais... Ah ouais, c'est... on va pas partir là-dessus. Tu vois, que des gentils. Voilà,
oui,
que des gentils.
Vrai.
Alors, tu vois, je monte, je descends dans le chat, parce que ça, c'est un de mes petits plaisirs de début de stream.
Ok.
Tu sais, le matin, moi, je viens pour lire les journaux.
Ouais.
Donc, les journaux sont lus, je suis prêt, voilà. Et en fait, mais c'est tellement agréable d'échanger avec les gens, de répondre aux questions, de prendre des nouvelles, qu'en général, je lance vraiment le truc au bout d'une demi-heure. Tu vois ? Parce que c'est super agréable. Tu vois, tiens, on va en prendre. Tu vois, là, il y a Jeff qui nous rejoint, qui est très content et curieux de te rejoindre parce qu'il veut savoir un petit peu plus sur toi. J'ai vu sur Insta que tu as autant de flow que Vin Diesel, voire plus. Sympa, ça.
Il en a plus que moi.
Tu l'as rencontré déjà ?
Ouais, on me l'a présenté à Disney. J'étais très impressionné.
J'ai vu la photo.
Non, parce que tu sais depuis que j'ai fait un film qui s'appelle Pattaya, dans lequel je joue un mec qui rêve de lui ressembler.
Bah oui, puis c'est.
Il y a cette espèce de truc de Gaston Bide, c'est l'espèce de sous Vin Diesel.
Quand tu fais la muscu,
voilà, exactement.
Dans le miroir, bien sûr.
Et du coup, bah là, on a bouclé la boucle, on m'a présenté, voilà.
Mais c'est.
Et je me rends compte que je ne sais pas me tenir sur Twitch. Comment on se tient sur Twitch ? Regarde, j'ai les bras croisés.
Mais c'est, en fait, c'est.
On dirait que je suis empoté.
Mais comme on veut, en fait, tu vois, c'est. Bon. C'est comme à la maison, quoi.
Ok.
C'est ça, c'est. Il n'y a pas la pression de la télé parce qu'il n'y a pas de règles. Parce qu'on répond aux questions qu'on veut déjà, on reste le temps qu'on veut. Voilà, si tu veux t'arrêter maintenant, s'arrête maintenant. Mais voilà.
C'est vrai que ce que je découvre là, c'est que c'est l'inverse d'une émission de télé.
Vas-y,
tu vois.
Dis-moi.
Quand tu vas faire Quotidien, par exemple, tu sais que tu as intérêt à avoir deux phrases très précises. Ouais. Il faut que tu sois bon parce qu'il faut que tu donnes envie aux gens d'aller voir ton film. Et tu sais que ça va être très court. Là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se dire plein de choses que je dis jamais quand je vais dans une émission de télé, quoi.
Pour moi, c'est le deuxième grand truc fascinant sur Twitch. Le premier étant l'interactivité, tu vois.
Il y a des trucs très gentils, de gentils.
Ah ouais, ouais.
Bah dis donc.
Ah ouais, la surface de réparation.
Tu l'as vu celui-là ?
Ça me dit quelque chose. Tu me rappelles ?
C'est un film qui se passe dans l'univers du football où je joue un joueur qui est passé à côté de sa carrière, qui est un des rares films d'auteur, vraiment d'auteur que j'ai fait.
Ouais.
Et qui a eu un succès de film d'auteur, c'est-à-dire pas grand chose.
Je l'ai pas vu, Franck.
Mais j'aime beaucoup ce film, merci d'en parler.
Ok. Donc, interactivité, ça c'est formidable, tu vois, pour lire des messages comme celui-ci. Et l'autre, en fait, c'est le temps, puisqu'en fait, tu prends le temps que tu veux. Et dans un monde aujourd'hui où tout va de plus en plus vite, tu vois, tu parlais de passage sur une émission de télé où tu as quelques secondes, au mieux une à deux minutes pour faire passer des messages importants, donc c'est un petit peu stressant. Et bien justement, ici, on a le temps. Et je crois que quand on va trop vite aussi, on perd en qualité. Et donc ici, on peut s'installer un petit peu, prendre le temps d'expliquer, de répondre. de s'ouvrir. Et pour quelqu'un qui, comme moi, ben, fait de la télé pendant 25 ans, c'est un, ouais. c'est un,
ouais, un,
vrai,
ouais,
kiff. C'est un vrai kiff. Tu vois, l'exemple, c'est la revue de presse le matin, qui dure 3-4 minutes quand je la fais sur France Info ou France 2, qui dure 3 heures ici.
Il y a quelqu'un qui écrit, il est au courant qu'on est là pour 3 heures ? Eh bien non.
Pierre-Yves, on avait dit qu'on disait pas au début. Non. Attendez, vous avez pas reçu mon message. J'avais dit qu'on disait, on parlait pas de timing au début.
C'est pour ça que tu m'as dit bon, qu'est-ce que tu veux pour manger. D'accord. En fait, ok. Effectivement, là, on va avoir le temps de se raconter des trucs là.
Alors, en fait, j'ai dit à Franck, parce que Franck m'a demandé la durée avant de débuter, et j'ai dit à Franck, en fait, c'est comme tu veux. Twitch est un média du temps long, c'est un média bavard, donc voilà, j'ai donné l'exemple de la revue de presse du matin, mais Franck, tu restes une heure, tu restes deux heures, tu restes trois heures, c'est comme tu veux. Ne pas lui parler de la cave, oui, je ne parlerai pas de la cave. C'est rien.
C'est pas très... C'était un peu inquiétant, la cave.
Non, en fait, c'est parce que comme les gens trouvent que je suis parfois trop gentil, certains pensent que ça cache quelque chose, et que donc je retiens des gens dans ma cave. C'est une vieille légende urbaine. Voilà.
Tu vas aller voir Mansour, c'est Mansour Barnaoui qui est un champion de MMA qui combat vendredi soir, et j'y serai, c'est à Bercy, je serai au premier rang à côté de la cage. Je te dis parce que ça, je pense que tu vas pas capter cette info.
Elle est où la question ?
Là.
Mansour. Ok. MMA, je connais. C'est les assurances, c'est ça ?
Voilà.
C'est ça. Mais j'ai vu que tu étais assez ami d'ailleurs avec le grand combattant français là.
Cyril Gane. Je suis ami avec plein, ouais. Et je suis surtout ultra admiratif de ces surhommes, et oui, je pratique de manière très humble ce sport, oui.
Non.
Ouais.
À costaud. Attends, tu pratiques le MMA ?
Oui, bah il y a du monde qui fait ce sport, tu sais. Je le fais de manière vraiment très.
Attends, vous saviez ça, vous les amis ? Il y a des vidéos ?
Il y a des vidéos, bien sûr.
Ouais, attends, si je tape quelque chose sur YouTube, je trouve.
Ouais, parce que je pense qu'il doit y avoir.
Attends.
D'ailleurs, une célèbre balayette que j'ai mis à un combattant connu.
Qu'est-ce que je tape ?
Gaston Bide MMA, peut-être.
Incroyable. Mais je savais pas ça.
Tu sais, je me rends compte, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a plein de gens.
Ouais.
Alors ça, c'est quand je m'entraînais avec
Cyril Gane. Ouais.
Ouais, alors là, je suis quand même un peu à bout de souffle. Alors attends, est-ce que tu peux mettre...
Ouais.
Là, non, je crois pas que je m'entraîne là.
Ah, c'est lui, Mansour Barnaoui.
Ouais, exactement.
Incroyable.
Qui combat... Pardon, mais ça, les gens voient ce que tu fais là ?
Non, ah non, non, non. Non.
Enfin, il pourrait d'ailleurs, non, comprendre ce qui se passe.
C'est, en fait, là, je cherche.
Francky Balayette, voilà. Alors peut-être qu'il faut.
Quelqu'un me l'a envoyé, je pense.
C'est ça ?
C'est sur TikTok.
Ah oui, ça doit être.
On va regarder. Merci. Captain Mybernick qui a un modo. Et en fait, tant que je la fuis. C'est ça ?
Ouais, alors, cette vidéo a beaucoup tourné parce que c'est mon coach qui s'appelle Samir Faidi qui est un champion.
Tu vois, là, on va la mettre.
Et en fait, j'ai fait un truc très très fourbe.
Attends, ne t'inquiète pas. Tchoc.
J'ai fait un truc très très fourbe, c'est que j'ai profité d'un moment d'inattention. De mon coach Samir que j'adore,
ouais.
Que j'embrasse.
Voilà, il toc, voilà, ici et ici. Toc.
Alors là, les gens voient, ça y est.
Voilà, c'est les gens voient là.
Donc là, je m'entraîne au MMA Factory, qui est le club de Cyril Gane. Et là, mon coach va avoir un moment d'inattention, il me tourne le dos. Olé ! Voilà.
petit regard caméra. Attention !
Et.
Attends, je la remets un petit coup. Ah, t'es sans pitié quand même, là, regarde. Hop,
c'est le seul moment où je peux l'avoir, quoi. Alors maintenant, je remets les choses dans le contexte. En vérité, je tiens pas un round devant lui en vrai. Hein, là. C'est parce qu'il est gentil avec moi, mais. Mais oui, c'est un sport que j'aime beaucoup et que je pratique. Voilà.
Hey, depuis longtemps ?
Depuis. J'ai toujours fait de la boxe pied-point et du MMA depuis 2 ans.
Bon, ça, t'as eu beaucoup de succès avec la balayette, hein. Voilà. Très cardio ?
C'est l'enfer.
Ah, c'est ça, hein.
C'est ouais. Vraiment infernal. Et c'est évidemment. Un vrai problème, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est un problème.
Mais pas de compétition, pas de projet de compétition.
Non, parce que d'abord, c'est un vrai... Là, pour te donner un ordre d'idée, tu sais, j'ai fait un film en Colombie, donc je suis parti pendant 4 mois tourner là-bas en Colombie.
En parler,
là, je reviens du Maroc où j'étais tourné 3 mois. Et donc, c'est impossible d'avoir une rigueur. Et au-delà du fait que j'ai beaucoup de respect pour les vrais champions, donc je n'ai pas prévu de m'y coller, au moins par respect pour eux. Mais surtout... En fait, nous, les comédiens, les assurances nous interdisent de faire des sports de combat pendant les périodes de production pour éviter un coup qui mettrait fin au tournage. Donc, de toute façon, je ne peux pas avoir de rigueur d'entraînement. Quoi. Voilà.
C'est-à-dire que pendant les tournages, normalement, tu ne fais pas ?
Non, tu ne fais pas 3 mois avant le tournage.
Ouh là là !
Parce que si je me pète le nez 3 mois avant le tournage, on ne peut pas tourner
dans les dates. Le problème, c'est que tu tournes tout le temps.
Oui, je tourne beaucoup.
Bah
donc,
oui.
je ne peux pas avoir de rigueur dans ce sport. Bon, je ne te dis pas que je serais un champion si je n'étais pas comédien, hein, parce que J'en suis pas là, mais en tout cas, ça m'empêche d'avoir un niveau, ça c'est sûr.
Colombie, ça je sais, on va en parler, on va regarder la bande-annonce du film qui sort le 2 juin, je crois, sur Amazon,
Prime,
hein,
ouais,
sur
Prime
Amazon
Video,
Prime,
ouais.
Voilà. Et j'ai entendu Maroc à l'instant.
Oui, j'ai tourné...
T'as le droit d'en parler, déjà ?
Oui, j'ai tourné au Maroc en acteur, là, hein, donc c'est pas un film que j'ai réalisé moi.
Ouais.
Un film qui est le remake du Salaire de la peur. Qui est un...
Ah mais si, bien sûr.
Ah oui, tu connais ça.
Non, j'ai vu des images passer.
Voilà.
Le film de... C'est Clouseau. Non, qui
Clouseau.
Clouseau, Clouseau, Clouseau.
Ouais. Et là, c'est Julien Leclerc qui réalise, qui a fait la série Braqueur, le film Braqueur,
ouais.
Et qui nous a réunis. Moi, Alban Lenoir, qui cartonne en ce moment sur Netflix avec un film qui s'appelle Aka, et Fianso, le rappeur. Et Anna Girardot, la grande
Est-ce
comédienne.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà de bande-annonce?
Non, on vient de finir le tournage.
C'est ça, ouais. Mais j'ai vu des images.
Ouais, l'image existe.
Je vais vous montrer, les amis. J'ai vu ça passer, effectivement. Hop, je vais taper ton nom et ça va.
Je pense que ça sortira en début d'année prochaine.
Je le vois là. Hop. Rien que la photo est belle.
Écoute, ça s'annonce comme le gros film Netflix de l'année prochaine.
Je vous montre là un article dans. Hop, regardez, dans JQ. Voilà. Donc c'est sur Netflix.
Ça sera sur Netflix, voilà.
Donc, film mythique, là.
Oui,
alors... Salaire de la peur.
Moi, j'avais pas ultra la ref. Mais...
Magnifique.
Mais en fait, j'ai compris à quel point c'était quelque chose d'énorme, ce film, quand on a annoncé, donc par, entre autres, cet article-là, quand le film a été annoncé, je me suis rendu compte que, évidemment, ça provoque des réactions et d'inquiétude, parfois, parce que c'est un film culte, en fait.
Ah, carrément.
Donc, dès que tu touches à ça, les gens sont très inquiets de ce que tu vas en faire.
Et il n'y a peut-être jamais eu de remake d'ailleurs depuis. Celui-ci peut-être.
Il y a un remake
de
Friedkin qui s'appelait Sorcerer. Et voilà, mais bon, c'est un gros film. Donc c'est 3 mois de tournage au Maroc avec des camions, 3 mois dans le désert avec Anna Girardot, Alban Lenoir, Fianso.
Et la sortie.
Je pense début d'année prochaine.
D'accord, ça va être quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je vous ai mis la fiche wiki du Salaire de la peur, le film originel, donc tourné en 1953, qui est un film en noir et blanc, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, 1953, film d'Henri-Georges Clouseau, les comédiens, il y avait Yves Montand, Charles Vanel, il y avait plusieurs...
J'ai pas toutes ces rêves,
ouais,
tu vois.
Et c'était, moi je me rappelle, c'est un souvenir d'enfance, j'ai dû le voir à la maison, il a dû diffuser t'es pas né,
ouais.
Et et quand j'ai vu que tu faisais ça, et tu peux déjà dire un mot de ton rôle, le rôle que tu as ou pas?
Ben j'ai l'impression que c'est le rôle qu'avait Yves Montand,
carrément.
Ouais, c'est le rôle principal du film. Voilà, écoute, c'est un peu tout ce que je peux te dire. Évidemment, tout ça est ultra modernisé, ne serait-ce que par son casting. Tu vois, Fianso, le rappeur, Alban Lenoir, qui commence à être un peu connu pour ses films d'action sur Netflix, Anna Girardot, qui est dans La Flamme, Le Flambeau, puis qui est une actrice très connue de Clapiche et tout. Et Gaston Bide, là-dedans, voilà.
Théo Baldo demande au ciné sur plateforme. Je crois que tu as dit c'est sur Netflix, je crois. Hein.
Ça sera sur Netflix.
Netflix. Ouais. Le transport de la nitroglycérine, je vois que Melon, l'autre, a la ref, et c'est toujours ça.
C'est toujours ça.
Le Salaire de la peur, c'est ça, en fait.
Il y a plein de choses qui ont changé, évidemment. Ouais. Le simple fait, d'ailleurs, qu'il y ait une femme avec nous, puisque dans la version originale, c'est que des hommes.
Ah, c'est vrai.
Donc là, il y a Anna Girardot avec nous, mais c'est toujours la nitroglycérine qu'on transporte.
Il y a Flo qui demande si tu peux inviter tout le monde à l'avant-première, sachant qu'on est déjà 2500.
Ben non, mais la vérité, c'est que c'est un peu triste, mais il n'y a plus d'avant-première vraiment pour ces films de plateforme.
Ah oui.
Alors moi, j'ai beaucoup de chance, Prime Video sont contents de Medellin, donc ils organisent une grosse avant-première au Grand Rex, qui est toujours un cadeau quand t'es metteur en scène. Faire l'avant-première au Grand Rex, c'est incroyable.
J'avais vu des images de ton avant-première pour la série Validée, si je dis pas de bêtises.
Qu'on avait fait à l'Olympia.
Ouais.
Hein, avec écrit Validée, une série de Franck Gassendit sur l'Olympia, c'était incroyable.
Bah ouais.
Ouais, ça, c'est des récompenses souvent quand le diffuseur
est content.
Est content, okay. Il t'événementialise un peu la sortie. Et...
D'accord.
Donc on sera au Grand Rex. Mais en vrai, tu vois, quand tu fais un film de plateforme, c'est le nouveau monde. Hein. Quand tu fais un film de plateforme, bah oui, il n'y a plus de grande avant-première parce que le film n'est pas destiné à la salle, il est destiné à ce qu'on le regarde chez nous, quoi.
Alors, film de plateforme, il y a celui dont on va parler là, que tu as tourné
en Colombie
qui s'appelle
Medellin.
Medellin, sorti le 2 juin. Il y a celui qui arrive sur Netflix, Le Salaire de la peur. T'as tourné d'autres films pour les plateformes ? Ou tout le reste est du ciné ?
Tu veux dire qui vont sortir ou j'ai
non,
déjà fait
le passé.
Eh ben, j'ai fait un film qui s'appelle Sans répit sur Netflix, qui a été un gros succès.
Ok.
Et en fait, et pour te dire la vérité, ça aussi, si on se dit les choses sans filtre ici,
bah oui.
Sans répit a été un gros succès. Et donc, l'idée de Netflix était de rassembler dans leur prochain gros film qui va être Cellar de la peur,
ouais.
Des, ce qu'on appelle des gros viewers, c'est-à-dire qu'au cinéma, eh bien, tu rassembles les, ce qu'on appelle les acteurs bankable, ça on connaît ce terme maintenant. Ouais. Tu prends des mecs qui font des entrées et tu les mets ensemble pour espérer que le film intéresse les gens. Et ben maintenant, sur les plateformes, y a le même procédé avec des acteurs qui ont cumulé des gros, qui sont des gros viewers, quoi. Donc, quand, comme moi, avec Sans Répit, bah, t'as eu la chance que le film a cartonné un peu dans le monde, bah, tu deviens une des valeurs sûres. Et puis, quand c'est un gros film comme celui-là, bah, ils vont chercher Alban Lenoir qui, lui, a cartonné avec Balles perdues. Ils vont chercher Fianso qui a cartonné sur Netflix avec un film qui s'appelle Sous-emprise. Et puis, on met ces trois-là ensemble. Et tout ce que je te raconte, c'est quelque chose qui est récent, en fait. Tu vois, cette nouvelle politique, un peu comme le cinéma en salle. C'est-à-dire que Danny Boone va prendre Kadmerad parce qu'ensemble, ils ont cartonné dans les ch'tis. Et ben Netflix va prendre Alban Lenoir et Gaston Bide parce qu'il y en a un qui a cartonné dans Sans Répit, puis l'autre qui a cartonné en Balles perdues.
Voilà. Et puis c'est des prods internationales, là. On parle de films qui ont vocation à être diffusés dans le monde entier.
Et ils sont, de toute façon. Hein, ouais. C'est-à-dire que quand Netflix appuie sur le bouton pour lancer le film,
ça part partout.
D'un coup, ça part partout. Ouais. Et c'est aussi ce qui m'a décidé pour Medellin, parce que moi, j'ai beaucoup de chance. Mes films, ils ont marché en salle, tous, et même tous, chacun plus que le précédent. Et là, j'ai pris la décision que ce soit sur Prime Video parce que j'avais très envie que le film voyage, quoi, en fait. Donc, tu perds la salle, mais tu espères gagner un petit peu...
Et là, tu vois, tu commences à comprendre pourquoi Twitch, c'est si long. C'est parce qu'il y a un milliard de questions, qu'elles sont toutes pertinentes. Moi, je me retiens même d'en poser trop. Mais est-ce que ça te dérange si on regarde la bande-annonce de Sans Répit ?
Avec plaisir.
Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas en tête. Et puis après, j'aimerais qu'on regarde un peu plus tard. Après, on aura,
C'est frustrant de voir tous ces gens qui posent plein de questions super, en plus. Je suis désolé, alors, vraiment. Ça me gêne carrément de ne pas pouvoir répondre à tout le monde.
Et ouais, alors, sache que bon, les gens ont l'habitude, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas prendre toutes les questions.
Ouais.
Mais du coup, les gens les reposent un peu plus tard aussi.
D'accord.
Voilà. Et donc, ça crée de la frustration, c'est vrai. Mais ils sont habitués. Merci, les amis. Je vous montre la bande-annonce de Sans Répit, qui est un film qui est sorti en quelle année ?
L'année dernière.
Ok, 2022. Vous êtes prêts, les amis ? Let's go.
Ils débarquent dans combien de temps ?
Ils ont passé l'entrée.
On fait quoi, lieutenant ?
Des officiers de police de votre unité sont suspectés de fermer les yeux sur des activités frauduleuses. En contrepartie de pots de vin.
Manuel Barcelo, déjà inculpé pour trafic de stupéfiants.
Par les temps qui courent, si on l'arrête, ça ne fera pas de mal.
Personne.
Bon, on fait quoi ?
On cherche des indices. Il peut pas s'être volatilisé comme ça.
Vous êtes qui ?
Celui qui sait que tu as tué Manuel Barcelo. Dites-moi, lieutenant, où est-ce que vous l'avez emmené ? Après, vous l'avez embarqué dans votre voiture.
Ok, ça suffit, je raccroche.
T'es sûr de toi ?
Le chauffard aurait renversé un homme.
Vous avez une piste ?
Faut que je vérifie les vidéos de caméra surveillance.
Si je disais à la police l'endroit où tu as enterré le corps.
Tu veux quoi ?
Amène-moi Barcelo.
Pourquoi ?
Attention Thomas.
Trop de curiosité, tu.
Bon, j'arrête parce que. Il est dans ma. Tu sais ? Ma liste d'attente.
Ah oui.
Hein, depuis un moment déjà, tu sais comment c'est. Enfin, je pense que t'as peut-être le même souci. Tous les trucs que tu veux voir. Et là, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Et pas
oui, bah évidemment.
Voilà. Donc là, je vois trop de choses. Alors, j'arrête. Hop, ici. Je ne vous ai pas demandé, les amis, si au niveau du son et de l'image, c'était bien ce soir. Voilà, si on est bien. Voilà. Oui, ça nous. En tout cas, certains ont vu le film et ont beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu as vu les commentaires tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Tuka. Les bandes annonces de nos jours, ça spoil tellement. Alors, Franck, je ne sais pas si tu as ce même sentiment. J'ai l'impression qu'il y a 20 ans ou 30 ans, les bandes annonces des films étaient moins longues, notamment ce qui arrive sur Amazon et Netflix, qui n'existait pas bien sûr. Et du coup, ça en montrait moins. Aujourd'hui, notamment pour les grandes super productions qui arrivent au cinéma, tu as l'impression que tu vois la bande annonce.
Ouais.
Presque la bande annonce. Tu peux la trouver super cool, mais elle te donne pas envie d'aller voir le film parce que tu dis bah ok, j'ai vu. T'as pas ce sentiment parfois ?
Écoute, oui, il y a un tel besoin que ça fonctionne qu'on a tendance à mettre tous les ingrédients dedans, c'est vrai.
Ouais.
Tu vois ? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a parfois ça.
Tu vois, il y a par exemple Sylvie Carus qui dit « Moi, je ne vois plus les bandes annonces pour ça. »
Ah oui ?
Et là, moi, tu vois, je l'ai arrêté Parce que j'étais confronté à la même chose, je dis ouais, mais je vois trop là.
Ouais.
Je vois trop.
Alors, sur les films d'action, parce que là, si on se met tout à l'heure l'abondance de Medellin, on pourra décortiquer des choses.
Ouais. Ah oui, ça, j'adore.
Moi, j'ai volontairement, il y a des twists très importants du film qui ne sont pas dans la bande-annonce.
D'accord.
Et pourtant, j'aurais pu plonger dedans parce qu'il y a des trucs dont je suis super content. En revanche, pour l'action, c'est vrai qu'on a tendance à mettre plein de moments d'action parce qu'on a envie que ça pète, on met les motos, les voitures, les explosions. Mais tout ça, malgré tout, n'empêche pas de te mettre dans le film parce que ces scènes d'action, elles sont spectaculaires dans une bande-annonce, mais ils sont hors contexte. En revanche, quand tu regardes le film, tu es avec eux pendant ces scènes d'action, tu as peur pour eux. Donc voilà, c'est sur les comédies parfois que c'est gênant quand tu te dis ok, les quatre grosses vannes sont dans la bande-annonce, c'est sûr que ça c'est gênant.
Et sur les, tu vois, les films de super-héros, il y a Captain McBurney qui écrit, quelqu'un a fait ça pour Ant-Man, il avait additionné toutes les bandes-annonces et il avait presque 60% du film.
Ah ouais.
Tu vois.
Oui, on est poussé par un tel besoin que ça marche que on a tendance à tout mettre.
On va aller voir la bande-annonce de Medellin tout à l'heure parce que c'est le prochain film à sortir de Franck le 2 juin, si je ne dis pas de bêtises,
oui, c'est ça.
Sur Prime, sur Amazon Prime. Mais je vais prendre quand même une ou deux questions pour vous montrer que je vous lis un petit peu parce qu'on est en train de vous lire. Franck, n'hésite pas à t'emparer toi d'une question si tu la trouves sympa dans tout ce que tu vois là.
Bah, on peut aussi répondre à, parce que franchement, c'est que des trucs très gentils. Comment arrive-t-il à... passer, t'as vu le dyslexique quand je lis, hein.
Et où est-ce c'est là?
Comment arrive-t-il à passer au-dessus des critiques quand tu as travaillé plus de 2 ans sur un projet?
Question de Six Milac.
Écoute, c'est une bonne question. Au début, ça a été un peu brutal parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Alors maintenant, je suis très apaisé avec ça. D'abord parce que qui je suis pour espérer faire l'unanimité? Personne. Et personne ne le fait d'ailleurs, l'unanimité. Personne ne l'a fait. Donc, je ne suis pas en train de chercher à ce que tout le monde aime ce que je fais, d'autant plus que je fais des comédies. Des comédies, c'est de l'humour, et l'humour, tu le sais, c'est extrêmement segmentant.
C'est clair.
Il y a des gens qui aiment Redouane Bougueraba, il y a des gens qui aiment Jean-Marie Bigard, et puis alors ceux qui aiment Redouane Bougueraba n'aiment peut-être pas les autres, puis alors, et puis ceux qui finalement les gens ne comprennent pas qu'on aime ça, puis parfois ça les met en colère que ça c'est nul, mais lui il aime bien, laisse-le s'il aime bien, pourquoi tu trouves ça nul toi, enfin c'est, chacun pense ce qu'il veut. Donc j'ai mis un peu de temps parce que il a fallu que je comprenne cette règle qui est quand tu fais quelque chose comme nous, comme toi, on s'expose, on choisit de s'exposer, et on s'expose donc à ce qu'on nous aime et aussi à ce qu'on nous aime pas, même si on n'a rien fait pour qu'on nous aime pas. Ça, c'est quand même une mécanique un peu bizarre. C'est-à-dire quand tu sais, mais moi, je fais rien de mal, je fais des films, j'essaye de faire du divertissement. Puisque c'est du divertissement, il y a déjà des gens. Non, divertissement, c'est un truc de gogol, c'est pour les imbéciles, je veux pas, c'est nul, c'est de la merde ce qu'il fait avec l'argent des impôts, je sais pas, il s'invente des trucs. Bon.
C'est des trucs que je lis parfois.
Oui, oui, moi j'ai lu ça aussi, ça on peut en parler.
Ah oui, j'ai lu des trucs comme ça.
Et ça en devient ridicule, parce qu'en plus les gens s'invente des légendes et puis ils se trouvent des raisons de pas aimer ce que tu fais alors qu'il suffirait juste de dire, bon, moi j'aime pas ce qu'il fait, ça me touche pas.
Ouais.
Et j'ai jamais prétendu que tout ce que je fais doit plaire. En revanche, j'ai beaucoup de chance, ça plaît à plein de gens. Donc. J'ai fini par devoir accepter ça maintenant, il y a quelques années, de me dire, voilà, on s'expose à ce qu'on nous aime et aussi à ce qu'on nous aime pas. Et puis un jour, en discutant avec ma mère, je me rappelle que je lui dis, je vais pas dire le nom de la personne en l'occurrence, mais je lui dis, je vais faire un film avec telle personne. Et elle me dit, oh, je l'aime pas lui. Mais je lui dis, maman, qu'est-ce qui t'a fait lui? Ma mère habite au fin fond de la Seine-et-Marne d'où je viens. Non, mais rien, je l'aime pas. Et je me suis rendu compte donc que moi aussi, je dois générer ça parfois. Même si t'as rien fait pour ça, bah, y a des gens, ils ont décidé de pas t'aimer parfois. Bon.
Ils t'ont vu une fois sur un truc, sur un plateau télé, une seconde, ou dans une scène, ça leur a pas plu, voilà.
Ouais, et parfois c'est totalement. Parce que la personne, en plus, qu'elle me dit, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Et quand elle me dit, ah, oh, lui, je l'aime pas. Bon, alors tu t'es dit, mais je me dis, mais moi aussi, je dois provoquer ça. Et donc, il faut complètement accepter ça. Maintenant, pour répondre plus précisément à la question de qu'est-ce que ça fait de prendre des critiques alors qu'on a travaillé deux ans sur un projet.
Tu t'es habitué? Ouais.
Oui, parce que la vérité, c'est que je suis très privilégié, moi. J'ai jamais fait un projet qui n'a pas marché. Tu vois, souvent, les gens, tu vois, les haineux... Moi, vraiment, souvent, c'est très drôle. Ouais, c'est sûr, ça va être un flop. J'en ai pas fait un encore, un flop.
Et en fait,
mais à chaque fois, les mecs te disent, c'est sûr, ça va être un flop.
Chaque fois que tu fais un film, en tant que réalisateur, par exemple, à chaque fois, ça marche plus fort, en termes d'entrée.
Ouais.
Hein, je crois, jusque-là. Hein.
Oui, bah, les Carreras, ça a fait 1 million d'entrées. Pattaya, ça a fait 2. Taxi, ça a fait presque 4.
Ouais.
Et puis Validé, là ça m'a dépassé complètement. Validé, c'était plus inattendu parce que c'était une grosse prise de risque pour moi parce que je passais à je passais à la série et je passais au drama. Donc c'était un double changement de registre, moi qui faisais d'habitude des comédies avec mes potes, tu vois.
Quand j'ai annoncé ta venue ici, les gens m'ont beaucoup parlé de Validé.
Oui, oui, bah c'est
en disant qu'ils ont adoré, quoi.
C'est ce dont on me parle le plus dans la rue, encore maintenant, quoi. Là, tous les jours, on me demande est-ce qu'il y aura une saison 3 de Validé, quoi.
Tu vois, je prends volontairement le message de Carotte Sévère qui dit « Taxi 5, t'es totalement naze ». Moi, j'ai regardé Taxi 5 et en vieillissant, je suis moins bon public que j'ai été, notamment avec les films de divertissement et d'action. Je pense qu'en vieillissant, on devient un peu comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est un bon divertissement. Les personnages sont sympathiques.
Mais ça n'avait pas d'autre but que ça, ouais. Que d'être un bon divertissement.
Et je dis pas ça parce que je te fais plaisir. Pour te faire plaisir, j'aurais pas aimé. J'aurais pas pris la question. Hein, j'en aurais pas parlé.
Mais Taxi 5, c'est ce qui revient le plus dans les critiques.
Ah bon ?
Ouais, clairement. Pourquoi mais il y a une raison simple. D'abord, alors là, quand on parlait de l'humour segmentant, clairement, ce que je fais, ça te fait rire ou ça te fait pas rire. Il n'y a même pas de débat, en fait. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas.
Alerte générale. J'adore.
Bon, là, la vérité sur Taxi, c'est que... Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du cerf de la peur. J'ai ressenti quelque chose comme ça. C'est que quand tu touches au mythe, t'as pas commencé que déjà, on t'attend avec un fusil.
Oui, ça
voilà. Tu touches au mythe. Taxi...
Ah ouais.
C'est un gros succès, ça fait 3,5 millions, 3,6 millions, quelque chose comme ça. Luc Besson avait très envie qu'on en refasse derrière. C'est des gros scores quand ça passe sur TF1 et c'est typiquement le cinéma populaire. Donc, on aime ou on n'aime pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce qui est plus fou, c'est que parfois, il y a des réactions de gens tellement démesurées, t'as l'impression que t'as insulté leur mère. T'as juste fait un film qu'ils ont pas aimé.
Non, puis c'est compliqué parce que dans les séries comme ça, où il y a plein de choses qui en mettent plein les yeux dans les premiers, dans le 1 et le 2, quand tu découvres eh bien, les ressorts, l'intrigue, l'humour, la voiture.
Ouais.
Au 5, bon, tout ça, c'est déjà beaucoup moins waouh.
Non, mais
donc,
c'était...
C'est ça aussi.
Moi, je regrette évidemment pas du tout, parce que Taxi m'a aussi fait passer dans une autre catégorie de réalisateurs. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des petits films avec mes potes. Les Kaira, c'est un petit film que je fais dans ma banlieue à Melun, dans mon quartier, avec mes potes et avec un tout petit minuscule budget.
Moi, j'ai tellement adoré. Film le plus rentable de l'année.
Ouais, et puis le film va à Cannes. Enfin, c'était complètement fou ce qui nous était arrivé avec les Kaira.
C'était fou ce film.
Et ça lance ma carrière en tant que réalisateur, acteur et scénariste, puisque je faisais les trois.
Ouais.
Quand je fais Taxi, ça me fait basculer dans un autre monde où d'un coup, on me file un gros budget.
Ouais.
Donc je regrette absolument pas. La seule chose, c'est qu'effectivement, toucher à quelque chose d'aussi mythique que Taxi, tu prends que des coups. Et puis alors, surtout, tu fais un Taxi 10 ans après, alors que il y a des gens qui m'ont dit oui, il a tué la franchise. La franchise était morte et enterrée. Quand je vais voir,
c'était 10 ans quand même entre les deux.
10 ans avec le dernier, ouais. 20 ans
oui,
avec
oui,
le premier.
Bien sûr, mais avec le 4.
Et puis oui. Et puis c'était, il était plus question que ça existe pour Luc Besson, qui voulait plus en refaire. Donc quand je vais le voir et que je réussis à ce qu'il accepte qu'on refasse un Taxi, ça n'existait plus, en fait. Donc on n'a pas tué la franchise, encore moins avec un film qui fait 3,6 millions et qui est le dernier gros succès d'Europa Corp. Mais effectivement, c'est tellement risqué de toucher à un truc culte dont j'ai toujours été fan moi-même. Et puis d'un coup, tu fais Taxi sans les acteurs principaux,
ouais.
Et tu remplaces moi et Bentala. Évidemment qu'on va avoir des critiques, évidemment que des gens vont pas aimer avant même parfois d'avoir vu, ça on le savait.
Il y aura peut-être un 6.
Eh ben Luc Besson m'en a souvent parlé, encore une fois, c'est un film qui a marché, qui continue à faire des gros scores quand ça passe en télé. Moi j'ai jamais fait de suite à aucun de mes films. Moi j'ai pas prévu d'en faire un. Mais peut-être qu'un jour...
Pourtant, moi, j'aimerais bien que tu fasses un jour, et il y a plein de gens qui, je sais, qui te demandent une suite à ça. On va se faire un petit instant de nostalgie. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas les Kaira, alors je parle pas d'un autre truc excellent qui était Kaira Shopping, qui était la série diffusée sur Canal+, je crois, à
oui.
l'époque. Hein, c'est
enfin,
ça
on commence sur le site internet de Canal+.
Ouais, c'est ça. Ouais, qui est un truc mythique pour moi, qui donne après un film, pour ceux qui ne connaissent pas le film Les Kaira, qui est le premier film en tant que réalisateur de Franck, on est d'accord, je vous mets la bande-annonce parce que... Séquence nostalgie, moi c'est, moi c'est ma Madeleine de Proust, j'adore. Abdelkrim et Mousten, je vois que certains connaissent. Vous êtes
ouais.
prêts? Bande annonce, alors regardez en entier, c'est que du bonheur. 1,55 de bonheur, c'est parti, les Kaira.
Dis-moi honnêtement, ça fait combien de temps t'as pas créé une meuf en vérité, sérieux? Il y a pas longtemps, j'ai encore fait un plan de malade avec une meuf, alors parle pas avec moi, s'il te plaît. Genre t'as créé une meuf de malade, mais par contre t'as pas filmé, t'as pas fait de photos, tu veux qu'on te croive? Tous les trois, on est nés ici, à Melun, dans le 7-7. Ça fait 15 piges qu'on traîne ensemble.
Fanny, ferme ta gueule. Eh, bouge avec tes yeux.
Le petit, c'est Momo. Il est capitaine d'une équipe de foot. C'est le Zizou des nains. Et leur entraîneur, c'est un vrai psychopathe.
Et les petits pots, on passe le ballon et nous, on passe entre les jambes.
Moi, je m'appelle Moustaine. Et mon kiff, c'est les animaux.
Putain, c'est quoi ce truc de ouf?
Et Bouba? Alors, des fois, je teste leur agressivité sur Momo.
C'est mort, je veux pas le faire.
Mais moi, faut trop que je sorte mon album, je sais très bien que je vais péter dans la musique.
Le grand, c'est Abdelkrim, et il anime des soirées karaoké toutes pourries.
Et dimanche, et des monotones.
Et nous, bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier.
Ah, mamie,
je t'emmerde, fils de pute, hein.
En fait, tu tirais pas trop mal s'il n'y avait pas ce connard de Warner.
Hey,
Warner, tout le monde le déteste dans le quartier. Et il se prend pour une future star du rap.
Tout ce type de rap conscient, mesdames et messieurs, on y va, oh. Hey, cheveux, viens là, t'as touché ta chaîne.
Sérieux, vous en avez pas marre de rien faire de vos vies? Jamais de taf, jamais de thunes, pas de meuf.
T'es mal annonce de ouf, mon frère.
Eh, vas-y, viens, on le fait.
Vous avez déjà joué dans des films?
Non.
C'est un peu comment ça fonctionne?
Non, là, c'est... on débute, quoi, comme on pourrait dire.
On va voir.
Et c'est comme ça que toute cette histoire de ouf, elle a commencé.
C'est à moi que tu parles comme ça?
Et
Kaira, ok? Là, je te mets la chanson sur la prison. Parce que je vais aller en prison un jour, Inch'Allah.
Chaque scène est mythique. Si certains n'ont pas vu les Kaira, allez voir ce film. C'est. Chaque dialogue, chaque. Enfin, c'est... Qui a écrit les dialogues?
Bah, moi, c'est oui.
Mais chaque phrase.
Écoute. Ça me fait plaisir parce que là je vois passer plein de gens qui connaissent les dialogues par cœur et tout, c'est drôle.
Je vais aller en prison, Inch'Allah. Le rap conscient, la fin sur, quand il chante, enfin tu sais, quand il. Oh, tout quoi.
En fait, ce qui est. La vérité, c'est que je fais mon premier film à 30 ans, donc à Melun, dans mon quartier avec mes potes, sans jamais imaginer une seule seconde que ce film va avoir ce succès, que ça va aller à Cannes. Enfin, t'imagines bien que tu fais un film avec tes potes. Son histoire de mecs qui veulent faire du porno. Enfin, il n'y a pas un moment où tu te dis un jour on va être à Cannes en costume pour parler de ce film. Dans la salle, il y avait du jardin, il y avait tout le cinéma français qui était dans cette salle. On était ultra impressionnés. Mais c'est le résultat. Tu sais, quand tu fais ton premier film, bah, tu mets toute ta vie dedans. Et ce film, c'est presque mon film d'auteur en fait, parce qu'il parle de ma vie de mec de Melun, complexé, avec mes potes, mal à l'aise quand tu vas à Paris parce que tu sais que tu n'as pas les codes, que tu n'es pas habillé comme il faut.
Fringues, ouais.
Donc voilà, il y a un condensé de plein de vannes, de plein de trucs.
Mais les dialogues sont topissimes. Comment t'as eu l'idée des Kaira, demande Broubrou06?
Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée parce que j'aurais jamais osé l'avoir.
Ouais.
La vérité, c'est que je commence par Kaira Shopping parce que je réussis à rentrer comme cadreur sur MTV. Et puis, je me dis, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai l'idée de faire des sketchs où on va parodier un téléachat et on va faire le Kaira Shopping. Voilà. Et puis, un jour, Mathieu Kassovitz, que j'avais connu parce que je dressais les chiens sur son film, me dit, c'est super drôle, tu devrais en faire un film, une fiction.
Ah, c'est Kassovitz?
Ouais, c'est Kassovitz qui me dit ça. Mais, et il me dit ça sans se rendre compte de ce qu'il me dit. Mais en vérité, moi, ça fait l'effet d'une bombe dans ma tête. Je me dis, mais un mec comme lui considère que le mec de Melun que je suis pourrait faire ça. Bon, bah alors s'il pense ça, c'est peut-être que c'est possible. Et je me suis enfermé dans ma chambre à Melun et j'ai écrit ce film. Voilà. C'est vraiment. Et je l'ai tourné dans mon quartier, qui est un quartier à Melun qui est à 100 mètres de la clinique où je suis né. Enfin, c'est vraiment mon film à moi, quoi, tu vois, fait avec rien.
Et les gens t'en parlent encore beaucoup, non?
Ouais, bien sûr.
Des fans comme moi, des.
Ouais. Ceux qui sont plus jeunes me parlent de Pattaya et ceux qui sont un peu plus vieux me parlent des Kaira. Mais la vérité, c'est que les Kaira et Pattaya sont des films qui sont. Qui ont été achetés par Amazon. Ils sont en ce moment et sur Amazon et sur Netflix, en même temps multidiffusés en télé. Donc, c'est des films qui continuent à exister, quoi, voilà, et dont on me parle beaucoup, bien sûr. Et encore une fois. On n'aime pas cet humour-là.
Ouais.
J'ai beaucoup de chance, ça a été des gros succès.
Oui, puis on peut être, même si on aime ton univers, on peut être plus sensible à un film qu'à un autre. Moi, par exemple, la bande-annonce du film qui sort le 2 juin, là, qu'on va regarder, elle m'a mis deux pour la bande-annonce. Je me suis dit, voilà, ça va être, je sais pas, si le film ressemble un peu à la bande-annonce, je sais pas.
Ah, le film est mieux que la bande-annonce.
Je sais pas, moi, c'est, pour moi, c'est plus. Enfin, tu peux pas juger un film sur une bande-annonce, mais il va être plus fort que.
Oui, c'est un film plus... j'espère, en tout cas, à chaque film évoluer. Et dedans, tu verras, il y a des scènes... tu penseras à moi à ce moment-là. Il y a des scènes qui pourraient être dans Les Caïras, vraiment.
Ouais, ouais.
Et puis, il y a des scènes qui pourraient être dans Validé. Et voilà, j'ai essayé que ça soit la résultante de tout ce que j'ai appris en 10 ans que je fais du cinéma, quoi.
Donc, c'est ton quatrième film en tant que réalisateur ?
Quatrième film, cinquième projet avec Validé dedans, mais quatrième long métrage, ouais.
Ouais. Voilà, je rentre un petit peu dans les questions, les amis. Ouais, bonne question de Didine AZ. Avec qui rêves-tu de tourner ? Réalisateur, donc en tant que comédien, ou acteur, actrice en tant que réalisateur, des gens avec qui tu n'as pas encore tourné ?
Acteur, actrice, il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a vraiment beaucoup. Mais. Omar Sy, on s'est loupé, on devait faire des choses ensemble. Pierre Niney, qui est quand même incroyable. La liste est longue de mecs que j'admire. Tahar Rahim, comment ne pas être fan de Tahar Rahim ? Puis c'est que des gens que je connais, on s'aime bien. Et voilà, après, c'est des, tu sais, le cinéma français, c'est quand même des familles. C'est aussi des genres qui parfois ne se mélangent pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup de chance, c'est que. Ma carrière d'acteur me permet d'aller faire des choses que je ne sais pas faire moi en tant que metteur en scène. Sans répit par exemple dont on parle, ou La Surface de réparation dont on nous parlait tout à l'heure, c'est des choses que je ne saurais pas écrire moi, et je suis ravi de pouvoir aller dans ces univers là quand des réalisateurs me le proposent. J'ai fait un film qui s'appelle Good Luck Algeria aussi, qui parle du premier Algérien qui a fait les Jeux Olympiques de ski, que j'ai fait avec Sami Bouajila, qui est un de mes acteurs préférés, qui est voilà, un film que j'ai adoré, qui raconte des choses qui me plaisaient beaucoup. Je n'aurais pas su écrire ça, et c'est génial de pouvoir faire l'acteur dans ces films-là. Donc, les choix d'acteurs que je fais, souvent, c'est pour ça que je ne fais pas trop de comédies pour les autres. C'est que je me dis, bah, moi, je fais mes comédies, et puis je suis tellement content que des réalisateurs me proposent des films que je ne serais pas capable d'écrire, quoi.
Tu parles de famille. On a revu Alice Belaïdi, qui est dans Les Caïras.
Ouais.
Est-ce que tu as retourné avec elle ou pas depuis Les Caïras ?
Non, non, et puis elle n'a pas besoin de moi. Hein. Elle a une bonne carrière, mais non.
Non, ça ne s'est pas fait. Question intéressante de Georges Dandin. Pourquoi un film sur deux, il y a des nains ?
Ah, c'est pas un film sur deux, c'est tous mes films.
Tous tes films,
ouais.
C'est les quatre.
Même dans Validé, Anouar, qui joue dans tous mes films, fait une apparition. À un moment, il y a une scène où on a tourné à la prison de Fleury-Mérogis et il est en train de jouer avec un ballon.
Très bonne question. Alors pourquoi dans tous les films, il y a des gens de petite taille ? On dit nain ou on dit personne de petite taille ?
Ah, nous, on est détendu sur ça. Il m'appelle le chauve, je l'appelle le nain. D'accord. Très détendu sur ça. Mais normalement, ça se fait pas. Mais nous, on est amis.
C'est quoi le terme poétiquement correct ? C'est
oui, personne de petite taille.
C'est ça.
Mais même lui, il me dit. Ah, c'est... Mais enfin, il a surtout un prénom, en fait. Tu vois, au-delà de la particularité physique. Et à Noir, ben non, pourquoi ? Ben en fait.
Oui, pourquoi ?
Je me pose pas la question de. Il faut que je mette un nain. C'est juste que. Ma source d'inspiration, c'est quand même beaucoup mes potes.
Okay.
Et il y a Ramzy dans tous mes films parce que c'est mon meilleur ami, c'est mon grand frère. Et Anouar, c'est aussi un de mes meilleurs potes. On part en vacances ensemble. Je connais sa famille, ses enfants, c'est mon ami, quoi, tu vois. Donc j'ai une chance énorme de pouvoir les avoir. Et puis surtout, c'est une source d'inspiration. Anouar, il a beaucoup de recul sur cette image. Et pour lui, il a compris que finalement, il allait en faire une force de cette petite taille. Il sait très bien quand on discute que. Bah, y a des vannes qui vont être plus drôles si c'est lui qui les fait. Donc quand on est en train de discuter avec Ramzy et qu'on est à mon bureau et que je dis j'ai pensé à ça, Anouar va me dire laisse-la moi, je vais la tuer la vanne, je sais comment la faire. Voilà, c'est comme ça.
Là, il a payé de sa personne pour ton prochain film. Là. Il y a cascade. Là. J'ai vu le making-of aussi.
Ouais.
Il a donné là. Hein.
Ouais, il y a plusieurs cascades et il adore ça et il est très fort pour ça. Mais bon, il était habitué avec Pattaya, parce que Pattaya, on lui en a fait quand même. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de la scène où Malik Bentala est malade. Malik Bentala est malade.
Toilette, tu veux dire ?
Oui.
Oh putain, c'était. Franchement, moi je suis... enfin, je suis hyper open, mais elle était dégueulasse cette scène. Tu l'as voulu. Tout le monde a la rêve de cette scène. C'est du caca ou du vomi ou les deux, je sais plus.
C'est du caca.
Ouais. Partout.
Alors évidemment, c'est pour de faux.
T'as voulu faire une scène. Tu t'es dit, je vais faire une scène crado là.
En fait, tu te rappelles
dans. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, si un jour je le croise, il faut qu'il me raconte cette scène.
Bon, alors je vais te la raconter
dans ses
détails.
Ah ouais, ouais, ouais.
Écoute.
Tout le monde a la ref, hein. Tout le monde la voit là.
Ouais. Écoute.
cette scène.
Non, en fait, j'avais vu dans un film des frères Farrelly qui s'appelle All Pass, bon à tirer en français, une scène comme ça de défécation très drôle.
Ouais.
Et je m'étais dit, en fait, je cherchais une scène qui allait non pas provoquer des rires, mais provoquer des cris dans la salle. Et c'est complètement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on prenait un plaisir incroyable quand on était en avant-première. La tournée d'avant-première de Pattaya était géniale parce que c'était le film après le succès des Kaira. Donc on arrivait dans des salles en banlieue qui étaient pleines et c'était merveilleux.
Waouh. J'étais en train de voir si on l'a listé sur internet.
Je crois que ça, j'ai Nienne dans le cul, je crois que c'est celle-là.
C'est ça, je crois. Ça devait
être une impro de
manière. Attends, avant de la regarder, je te laisse me dire. Donc tu voulais une scène, pas qu'il fasse rire, mais qu'il y ait des gens crient.
Qui provoque des cris. Voilà. Et mais quel plaisir incroyable, si tu savais, quand on était en tournée d'avant-première, on rentrait dans la salle au moment où ça arrivait et on comptait. Attention. 1, 2, 3. Et on avait 500 hurlements dans la salle. Et je te jure, provoquer ça, c'est très cool parce que t'es dans une salle de cinéma, il faut que ça provoque des émotions, tu vois. Bah là, on provoquait quelque chose de très cool. Allez. Et surtout très drôle.
Là encore, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la montre, cette scène. Je pensais pas qu'elle était sur YouTube. Elle est sur YouTube. Vous tapez, j'ai tapé Pattaya toilette. Alors, vous êtes prêts? Alors, les âmes sensibles, les plus sensibles d'entre vous, éloignez-vous à l'instant de ce stream. Putain, mais moi, j'ai regardé ça, j'ai fait, mais quoi? What the fuck? Let's go.
J'ai une hyène dans le cul, sa merde!
Et il fait quoi, l'autre, là? Il est relou. J'ai envie de pisser, en plus, là. Il va rester combien de temps, tout chaud?
Ça me lance! Vas-y, viens, prends ton téléphone.
Quoi faire?
Viens, prends ton téléphone, je t'ai dit.
Putain!
Vas-y, prends ton téléphone, filme.
Ça se fait pas, frère.
Non, tu t'en fous, t'as vu ce qu'il t'a fait, lui? Tu t'en fous, viens, on va le filmer, cette connerie.
J'ai honte.
Ah, tu t'en sors, frérot?
C'était
bien. J'ai marre, je vous ai péré. Ah, j'ai mal. Frère, c'est de la lave qui va sortir de mon cul. Ah, ça arrive. Frère, je sais pas si je vais gerber ou chier, frère. Je vais gerber.
Ça va mieux les frères. C'est le riz les frères. Oh là, ça va mieux, ça y est. On sort ou quoi?
Écoute,
j'ai honte, j'ai un
moi,
peu
je
honte.
Je l'avais pas revu depuis. Ça a bien vieilli.
Ouais.
Ça a bien vieilli.
Bah non, mais c'est.
Ce qui est mignon, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de manger en fait. C'est vrai, c'est non, les, je mange.
Non mais c'est, cette scène n'a pour unique but de nous faire rire en
moi,
fait,
et
surtout de provoquer quelque chose d'un peu fort. Alors il faut la remettre dans le contexte. Malik juste avant se gave dans les rues de Pattaya de nourriture qui va être une nourriture avariée, et voilà le résultat. Performance de Malik hein, quand même, parce que c'est pas facile. Il est le cul à l'air, enfin tu vois, il part sur des impros assez incroyables.
J'ai une hyène dans le cul.
J'ai
une hyène dans le cul.
C'est lui, c'est son impro.
C'est génial.
Et moi, je lui ai dit, il y a de la lave qui va sortir de mon cul. Et lui, il dit, vas-y, ok, je le dis. Et je vais aussi dire, j'ai une hyène dans le cul. Ok, vas-y, envoie. Et puis, performance d'un noir, quoi. Là, d'un coup, il faut y aller sur une scène comme ça. Mais on est juste en train de se dire, bon, est-ce que ça va être drôle ou pas? Tournons là. Et je me rappelle avoir envoyé à mon producteur qui me suit depuis mes débuts. Je lui envoie la vidéo du moniteur. Donc on vient de finir la scène, je suis au fin fond. On tourne ça dans un studio à Bangkok. Et il me dit mes enfants vont me renier, ma famille va me renier. Mais c'est vraiment très drôle.
Ah, j'adore.
Non, c'est un bon. Et alors, le secret de fabrication
parce que quelqu'un nous assurait que c'était fait sans trucage. T'imagines? Eh bien oui, c'était sans trucage.
Écoute, Malik est assis sur une bonbonne et on appuie sur un bouton et on expulse du chocolat, du Nesquik, c'est du Nesquik avec du maïs, je crois. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, on a fait ça. Putain, j'ai jamais raconté ces histoires-là. On a fait ça trois fois.
C'est
parce que t'imagines bien que derrière. Oui, on a fait trois fois.
Trois prises. Heureusement que c'était du chocolat.
Oui. Et alors, donc, t'imagines bien qu'on est dans un studio en fait. Que c'est ce qu'on appelle c'est une planche en fait, c'est une feuille de décor qu'on enlève pour pouvoir refaire la prise, tu vois. Parce que si tu nettoies, etc., en termes de timing, c'est foutu. Donc j'avais trois fonds, donc je ne pouvais la faire que trois fois. Et les deux premières fois étaient un peu décevantes en termes de contenu de matière. Et sur la troisième, je dis à l'équipe, s'il vous plaît, on met tout, max, et ça donnait ça. Et après, tu as ce truc un peu magique où Malik joue tout ce qu'il faut. Anouar, il joue le truc où il regarde et il tombe dans les pommes avec le bon timing. Et bon.
Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a donc du chocolat de la merde partout autour d'Anouar, mais sa silhouette est comme dessinée derrière en fait.
Oui, c'est ça.
C'est terrible, c'est super. C'est mythique.
déçu d'apprendre que c'était pas de la vraie merde. Oui, c'est, ben voilà, mais c'est le risque là. Je vous raconte les dessous.
C'est, en fait, c'est ce qu'on appelle du cinéma. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas vrai. Voilà. Le taxi, par exemple, la voiture ne roule pas à 300, je sais pas combien ça va, 330.
Ah, je peux même vous dire que sur Taxi 5, on en avait 4, on en a cassé 3, et sur les 3, il y en a un qui était un diesel, même cas.
Ouais. Oh non, mais non.
Mais... Oui, je suis désolé. Je te dis tout.
Voilà.
Je sais plus, mais c'était infernal. Puis tu sais, dessus, on remet des bruits de moteur. Enfin, c'est le cinéma, quoi.
Il y a Zark 5 qui dit, est-ce que tu dirais que les deux premières prises étaient à chier? Est-ce que tu dirais ça? Est-ce que tu dirais...
C'était le cas.
C'est cool aussi de connaître le...
Il y a beaucoup, beaucoup de gens, on peut pas répondre à tout. C'est
impossible. Tu vois, t'es 2500, maintenant on est 3500, ça va continuer à monter. Tiens, comme tu es un peu curieux de Twitch... Donc je pense que tu as compris un peu le principe, ça part un peu dans tous les sens, on peut structurer, on peut déstructurer, répondre à certaines questions, regarder des choses sur internet. Puis ici il y a autre chose, ça c'est les gens en fait qui s'abonnent à la chaîne.
D'accord.
En fait, ce contenu il peut être regardé gratuitement, hein, c'est-à-dire qu'on peut regarder, tu cliques sur Twitch puis tu regardes le contenu. Mais si tu le souhaites, tu peux soutenir la chaîne, c'est absolument pas obligatoire, en prenant un abonnement,
okay.
C'est quelques euros par mois. Et en fait c'est ce que font les gens dont les noms s'affichent ici. Le matin, je vous remercie un par un parce que j'ai un peu plus le temps, je suis sur les journaux et sur le chat. Donc pardon, là je fais un grand merci général, notamment à Jordan Picard, Montane, Natos, Tant de Chats, Mister Crucio, Astalès, Bulsan, Pierre-Yves, Captain McBernick, Calvici, magnifique. Ah non, c'était ce matin ça. Et Renard Boucli, merci pour les bises. Donc un grand merci général. Pour les subs, je ne vous remercie pas autant, aussi souvent que je voudrais. Question pour Franck, tu connais quoi de Twitch ? Eh bien, je pense que Franck, il connaît pas encore trop Twitch.
Je connais rien, je suis en train de découvrir. Voilà.
Mais c'est peut-être le début d'une grande aventure parce qu'il y a un...
Non, mais je vais te dire, la vérité, c'est que j'aime discuter et je suis souvent très frustré de... des émissions de télé où, et c'est le format et c'est normal, hein, dans lequel on a peu l'occasion. Et en fait... J'ai toujours eu des retours exceptionnels à chaque fois que j'ai eu la chance de faire des émissions de télé dans laquelle je pouvais me dévoiler et parler un peu. Parce que tu sais, parfois, on parlait de Quotidien, mais qui est une émission vraiment millimétrée, ultra riche en informations, etc. Mais le passage de l'invité est quand même très court et tout est très organisé. Parfois, tu peux donner une autre image de toi, tu vois, parce qu'il faut que tu sois bon sur les deux phrases que tu as. Et puis, et à l'inverse, quand tu vas faire, j'ai eu la chance de faire Rendez-vous en Terre Inconnue, par exemple. Ou
quelle histoire, ça, quelle aventure.
La plus grande aventure de ma vie.
On pourrait en parler pendant des heures.
Ou quand tu vas.
Non, mais.
Pendant trois heures déjà.
Non, le début, il est fou.
Tout était fou. Ouais. Mais même quand tu vas faire, j'ai eu la chance de faire le portrait de 7 à 8, ce genre d'émission dans lequel tu vas pouvoir un peu te dévoiler. Eh bien, j'en sors toujours heureux d'avoir pu m'exprimer. Et surtout, je vois bien le retour des gens. Donc je suis ravi de ça.
Certains pensent que tu as déjà fait un stream, que tu as déjà été invité chez Cyril Gann, qui a une chaîne Twitch.
C'est vrai que c'est Twitch ça.
Et oui, et donc c'est ton deuxième stream.
Mais alors, puisque c'était pas la même config, parce que c'était une config où on était quatre avec des canapés et tout ça.
Et donc t'avais pas le chat, tu voyais peut-être pas le chat comme ça.
Non, je voyais pas le chat, j'avais pas accès à ça. Et surtout...
parce que les gens se rappellent en fait.
Ça ressemblait un peu plus à une émission télé. D'accord. De YouTube. Ouais. Mais j'ai l'impression d'être un ringard surtout là.
Bah non, pas du tout en fait, les gens sont rappelés. Voilà. Donc Cyril Gann, je savais pas que Cyril avait une chaîne Twitch en fait. Voilà. Franck va kiffer Twitch, moi j'en suis sûr effectivement. Bah Franck aime prendre le temps un petit peu d'échanger et de... discuter.
Oui.
Merci à Excel Nico qui nous informe ce soir que sa coloscopie s'est bien passée. Merci, on est super content Nico. Merci à toi.
On y passera tous.
Eh bien, pour le coup, c'est un média pour toi quoi. Chez Manu aussi, chez Manu qui? Manu Ferrara.
Ah, j'ai été aussi. Pardon, mais alors en fait, je t'ai fait n'importe quoi.
T'as fait 1000 streams. J'adore.
Mais j'ai fait des streams sans me rendre compte que c'était des streams.
En fait, il va nous dire qu'il est passé chez Jean Massier tout à l'heure, c'est un spécialiste de politique sur Twitch, qu'il a joué à Nuit de la Culture avec Étoile, qu'il a joué aux jeux vidéo avec Zerator.
Non, alors je joue pas, je suis nul aux jeux vidéo, je suis une bille, donc je joue pas aux jeux vidéo, ouais.
Ah, y a pas un jeu...
Non, je suis vraiment... Mais ça, tu sais que c'est certainement dû à ma dyslexie, etc., je suis nul. Et au bout d'un moment, quand t'es toujours le plus nul de l'équipe, t'arrêtes de jouer parce que ça devient humiliant. Et chez Manu, en fait, j'étais à Los Angeles et je suis passé le voir pendant qu'il jouait. Et donc, je me suis vraiment pas rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose sur Twitch. Quoi.
Tu viens de prononcer le mot de dyslexie. C'est quelque chose que tu as déjà raconté, effectivement. Ton enfance, elle est marquée par ça. C'est-à-dire que,
plus jeune, googlisait pas Manuel Ferrara.
Et d'ailleurs, je le fais pas. Et en fait, toi, tu as atteint de dyslexie, ouais. enfant, sauf qu'en fait, personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais toute ta scolarité.
Ouais.
Tu as dyslexie qui donc te gêne pour la lecture et l'écriture, je pense. Hein.
Alors, si j'étais que dyslexique encore, ma vie ouais. aurait été un peu plus simple, mais je suis ce qu'on appelle multidys, c'est-à-dire que je suis dyslexique. Dyspraxie, qui est un trouble de l'apprentissage,
okay.
d'une manière assez générale.
Okay.
Dyscalculie, qui est un problème avec les chiffres, et ouais. dysorthographie, qui est un problème avec l'orthographe. Donc, c'est salade, tomate, oignon.
Et sauce blanche.
Ouais, et sauce blanche. Et ça a fait de moi un mec, forcément, sans que je le sache, qui n'avait absolument aucune chance dans le système scolaire classique. Mais, à mon époque, on ne savait pas ce que c'était. Donc, j'en veux à personne, certainement pas aux profs, ni même à mes parents, qui, toute leur vie... on pensait que j'étais nul et je leur en veux pas puisque je le pensais aussi que j'étais nul. Mais oui, ça a bouleversé complètement ma vie puisque j'ai été le dernier de la classe toute ma vie. J'ai jamais été avant-dernier. Donc rien ne me destinait à avoir la carrière que j'ai maintenant.
Parce qu'à l'époque, c'est ce que tu viens de dire, en fait, c'était pas. C'est pas quelque chose dont tu apercevais ça dans les familles, dans les écoles. Tous ces 10, là, c'est venu plus tard.
Moi, les recherches que j'ai faites m'ont appris que la dyslexie scolaire a été découverte en 91. Okay. Moi, en 91, j'étais déjà dernier de la classe depuis plusieurs années. Et puis, tu sais, il y a aussi un moment où je viens de banlieue. Les classes sont chargées et celui qui décroche, c'est dur pour lui, tu vois. Donc, on me mettait en 4e techno, en 3e techno. Je faisais toutes les classes de rattrapage possibles, et même là ça marchait pas. Et donc il y a ce moment un peu troublant où tu te dis, mais est-ce que je suis un imbécile,
ouais.
Ou est-ce que j'ai un problème? Et puis oui, c'est particulier parce que toute la première partie de ma vie, quasiment jusqu'à 19 ans, je suis convaincu que je suis nul. Je suis convaincu que je suis un bon à rien. La phrase que j'entends le plus, c'est qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ma mère n'ose plus aller aux réunions parents-prof parce que c'est humiliant pour elle d'aller voir le dernier. J'ai pas été foutu d'avoir le moindre diplôme, pourtant je travaillais pas moins que les autres, et surtout j'avais bien conscience que j'étais pas plus bête que les autres. Donc j'étais prisonnier là-dedans, et c'était douloureux, troublant, et ça a probablement fait de moi, en tout cas, le mec que je suis maintenant, qui a eu envie d'exceller dans quelque chose. Mais la première partie de ma vie est une vie d'humiliation, quoi.
Et à quel moment tu comprends, à quel moment quelqu'un parmi tes proches ou un psy, un orthophoniste, met le doigt dessus en disant, ah ben en fait c'est ça? Ça vient à quel âge à peu près?
Écoute, ça vient, tiens, Cyril Gann qui m'appelle.
Je coupe le micro?
Non.
Non.
Attends, Cyril Gann, en FaceTime. Je suis en stream. Je suis en train de streamer avec Samuel Etienne.
Bonjour Cyril.
Ouais.
Je suis en direct sur. Et alors, j'étais en train de dire que j'avais jamais été sur stream, et il y a plein de gens qui disaient, mais si, il a déjà été sur le stream de Cyril Gann. Voilà.
Ouais, mais tu sais pas ce que c'est.
Non, je suis. Attends, je montre Cyril aux gens. Voilà.
Excellent. Cyril, tu es. Il y a 3500 personnes qui te font un petit coucou.
Voilà.
Ah bah, fais tout sympa, hein, des gros bisous.
Je te rappelle quand j'ai fini.
Allez, on fait ça.
Salut frérot. Salut. Ciao.
C'est drôle, on en parlait tout à l'heure.
C'était pas prévu, voilà.
Génial. Donc tu disais quel âge? Parce que du coup, c'est un sacré soulagement quand même, quand enfin tu comprends.
Non, c'est un...
C'est pas un soulagement, non?
Non, je vois des duos d'angle mort, Cyril, il y a des gens qui connaissent.
Oui.
Écoute...
C'est pas un soulagement.
En fait, c'est une révélation, c'est au-delà du soulagement. En fait, ça va paraître fou pour les gens qui nous regardent là, mais c'est avec l'arrivée d'Internet, en fait. L'arrivée d'Internet... chez moi au fin fond du 7-7 où on avait un boîtier qui faisait du bruit pour se connecter,
je me rappelle
de ça. Et on parle d'une époque où il fallait attendre 2 heures pour une photo, que la photo se télécharge. Et donc je fais des recherches, et un peu par hasard je tombe sur un blog, ça aussi c'est à l'époque des blogs, de quelqu'un qui rend hommage à un de ses proches qui s'est suicidé parce qu'il était dyslexique et qui vivait mal tout ça. Et d'un coup je prends conscience que j'ai ça, et d'un coup ça bouleverse toute ma vie. C'est à dire que je suis pas nul, je suis pas un imbécile, j'ai un handicap invisible qui s'appelle la dyslexie. Puis ensuite je me suis rendu compte que j'avais plein de choses en plus de ça, et que j'avais de l'hypersensibilité qui m'expliquait aussi que parfois j'avais des réactions démesurées, en tout cas des émotions démesurées, que des choses me faisaient pleurer qui ne faisaient pas pleurer les autres. Et qu'à l'inverse, il y a des choses que je trouvais formidables que les gens ne ressentaient même pas. Donc il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Mais tout ça, à un moment, tu te dis « Ok, je comprends pourquoi je suis un mec un peu complexe, qui parfois est touché par des choses, qui parfois ne comprend pas des choses. » Et puis, il y a l'étape où j'ai décidé d'en parler en médias. Ça, c'est très récent. Okay. Ça fait un peu plus d'un an. Parce que tu sais comment c'est, ce métier, c'est beaucoup plus facile d'aller à la télé ou dans des émissions et de dire « Ouais, je fais mes cascades moi-même, c'est super, mes films font des succès. » Que dire, ben en fait, j'ai aucun diplôme, j'étais dernier de la classe toute ma vie, me demandez pas d'écrire parce que c'est illisible quand j'écris, et puis n'essayez pas de jouer aux cartes avec moi parce que c'est compliqué pour moi. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle parce que j'aurais adoré, moi, à mon âge, quand j'étais dans ma classe dernier ou dans ma chambre, à décevoir toute ma famille, de me dire, j'adorerais à la télé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, peu importe. Mais de me dire juste, il y a un mec qui a exactement ce que j'ai moi, et il a quand même réussi à faire des choses, parce que moi, à ce moment-là, j'étais convaincu que je ferais rien de ma vie, et c'est un peu dangereux quand t'es adolescent et que tu te dis, je ferais rien de ma vie. Parce que je suis un mec de banlieue, et le moment où tu tournes mal, il peut arriver vite. Et ce moment, il est poussé par ta réflexion de te dire, j'aurais jamais accès à des bons diplômes, ça, c'est sûr. Je n'aurai donc jamais accès à un bon métier. Et je n'aurai donc jamais accès à un bon salaire. Je m'étais résigné à me dire, eh bien, moi, par exemple, pendant longtemps, je gardais des parkings. J'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle France Déchets, où la nuit, je gardais des déchets, pour te dire. Tu vois, c'est difficile d'être au plus bas que ça, tu vois, de garder des déchets. Mais je ne me voyais pas capable de faire autre chose que ça, puisque qu'est-ce que tu fais dans notre société sans aucun diplôme ? Donc je me suis dit il faut que je parle de ça, et alors c'est vraiment quelque chose de bien d'en parler. Quand tu fais 7 à 8 le portrait d'Audrey Crespo-Mara et que t'as 5 millions de téléspectateurs qui te regardent dire ben j'ai été dernier de la classe toute ma vie, et bien derrière je m'en souviens toute ma vie, parce que j'allais en Colombie tourner le film et il y avait la wifi dans l'avion, et j'ai passé les 10 heures de vol. L'émission passait en même temps que j'étais dans l'avion. Et j'ai passé les 10 heures de vol à répondre le plus possible aux gens. Alors, il y a des gens, au bout d'un moment, tu ne peux plus répondre à tout le monde, mais j'ai reçu des centaines et des centaines de messages, et j'ai passé 10 heures à répondre à plein de gamins qui étaient touchés ou qui me demandaient des conseils, et de parents parfois un peu en désarroi par rapport à leur gamin qui avait ça. Et maintenant, je fais des conférences aussi sur ça, et où on parle de la dyslexie, du handicap invisible, de comment on se comporte, comment on se comporte dans notre société quand tu n'as pas de diplôme, quand t'es pas capable d'avoir une formation, alors que t'es pas plus bête que les autres, mais ton cerveau marche différemment et mon cerveau marche différemment.
Tout à l'heure, tu as parlé de ton hypersensibilité aussi.
Oui.
Il y a eu déjà plusieurs questions depuis le début de gens qui sont peut-être concernés aussi, qui voulaient en parler avec toi. Moi, la question que je me posais notamment, mais c'est peut-être pas une question pertinente d'ailleurs, c'est est-ce que l'hypersensibilité, ça peut être aussi un grand atout quand on est artiste, quand on est comédien, par exemple ?
Ben, je crois. Pendant un moment, il a été mon hypersensibilité, elle était problématique face aux critiques, parce que je l'ai réglé ça, mais pendant un moment, je pouvais recevoir 150 messages d'amour, et c'est la majorité. J'ai beaucoup de chance, les gens dans la grande majorité m'aiment bien, donc je recevais plein d'amour et plein de compliments, et puis il y en a deux qui sont méchants. Et c'est cela qui te touche. C'est cela à qui tu as envie de répondre. Parce que tu as envie qu'il t'aime. Lui, il a décidé de ne pas t'aimer. Mais puisque tu sais qu'il n'a pas de vraie raison, au fond, tu as envie de lui parler en disant « Attends, pourquoi tu m'aimes pas ? Je t'ai rien fait. J'ai fait une comédie. Tu n'as pas trouvé ça drôle. Ça ne sert à rien d'insulter ma mère. » Tu vois ? Et j'ai fini par me dire « Attends, tu es en train de parler de gens qui probablement ont eux aussi des problèmes qui les poussent à t'envoyer un message de frustration, de jalousie, d'énervement, démesuré, peu importe. » Mais donc, ça, c'était lié à mon hypersensibilité. Pourquoi je suis plus touché par les deux messages méchants que les 300 messages d'amour. Et puis ça, tu fais un travail sur toi, et puis ça passe. En revanche, mon hypersensibilité, pendant un moment, je me disais, mais quelle poisse l'hypersensibilité, quelle poisse d'être touché par des choses parfois un peu puériles, par un film qui n'est pas censé te faire pleurer, qui va te faire pleurer. Rocky me fait pleurer, tu vois. Dans tes relations sentimentales, parfois quelque chose qui n'est pas si grave ou qui n'est pas censé te faire pleurer va te toucher démesurément. Et ça, c'est difficile, mais le pendant positif de ça, c'est que tu vas aussi ressentir des choses que les gens qui ne sont pas hypersensibles ne ressentiront pas. Mmh. Des belles choses, des beaux sentiments. Tu vas avoir quelque chose, n'importe quoi, la nature, une discussion, des mots qui vont te toucher.
Une œuvre d'art. Une scène dans un film.
Exactement. Et puis des moments de la vie, et puis des attentions qu'on va te porter, et que tu vas ressentir de manière plus forte. Et tu te diras, bah ok, donc mon hypersensibilité parfois me joue des tours, mais parfois me fait des beaux cadeaux. Mmh. Voilà.
T'en parles très bien, je trouve. Et il y a Elie un de quatre qui réagit par rapport à ce que tu disais quand tu parlais de tes premiers boulots sur les parkings quand tu t'étais résigné.
Ça, il faut en parler.
On va le garder. Et qui dit à quel moment tu as pris confiance, tu as compris que tu pouvais faire plein de choses. Parce que comment on passe de gardien de parking que tu évoquais tout à l'heure à le Franck que tu es aujourd'hui. Alors évidemment, il y a plein de choses, mais à quel moment tu... C'est en passant par les animaux, je crois. C'est les animaux qui te permettent ça.
Exactement. Bah, c'est la première fois où je me dis, tiens, je sais faire quelque chose. Moi qui est nul en tout, à part au sport, d'un coup, poussé probablement par un manque affectif, je me dirige vers les animaux. Je me passionne pour les animaux, mais les animaux qui sont en bas de mon quartier, c'est des rottweilers, des pitbulls, ce genre de chiens. Et je me passionne. Et bah, avec les animaux, il n'y a pas besoin d'avoir son bac. Il y a besoin d'avoir du feeling, du ressenti, de l'instinct, leur logique à eux qu'il faut comprendre. Et puis très vite, je deviens bon. Je demande mon premier stage d'orientation professionnelle au collège, en sixième, je crois, ou en cinquième. Je demande à être dans un élevage qui est à côté de chez moi. Donc ma mère appelle cet élevage et puis je suis reçu dans cet élevage c'est un élevage où je vais ramasser le caca des chiens au début, tu vois. Enfin, je suis stagiaire du collège. Je devais y rester 2 semaines. J'y ai passé 2 ans, mes week-ends, les vacances scolaires. Et là, je deviens bon dans quelque chose.
Ça, c'est cool.
C'est-à-dire qu'on me demande des conseils et puis j'obtiens des résultats. Et
on puis
on te félicite. Ouais. Puis on va te dire, va voir ce gars, il est bon en dressage. Ah oui, mais parce que mon chien, il obéit pas. Bah, demande-lui. Et puis j'y arrive. Et puis 1, 2, 3, 10, 20. Et puis je commence à être le mec connu dans toute ma région, là, dans le 77. C'est lui qu'il faut aller voir pour dresser les chiens. Alors c'est autant mes potes de banlieue avec leur pit, leur rotte, autant les mecs de sécurité avec leur malinois. Et je finis le week-end par faire des en forêt, il y a 40 chiens que je dresse. Et d'un coup, je deviens un mec qui sait faire quelque chose, tu vois. Et puis, je deviens tellement bon qu'on vient me chercher pour faire des films avec mes chiens.
Ouais.
C'est comme ça que ça commence il y a 22 ans, sur 23 ans, sur le tournage des Rivières Pourpres, qui est le film de Kassovitz avec Jean Reno. Et je me retrouve on vient me chercher parce qu'il faut des pitbulls et des rottweilers. Et moi, le petit mec de banlieue que je suis qui dresse ces chiens-là, eh ben, on me propose ça.
Je sais faire.
Je sais pas faire grand-chose, mais ça, je sais faire.
Tu le fais bien.
Et puis là, d'un coup, c'est un choc parce que j'y vais pour dresser des chiens et je le fais bien. Et Kassovitz est content et il aime les chiens et on se retrouve à balader les chiens entre les prises et j'ai 20 ans et je suis terrorisé. Et puis d'un coup je me dis mais ce milieu il est incroyable et je commence à être dresseur d'animaux pour le cinéma, mais j'ai un rêve secret dans ma tête, c'est est-ce que moi je pourrais pas à un moment réaliser des films, est-ce que je pourrais pas...
Ah, tu dis même réaliser.
C'est ça qui m'intéresse. Faire l'acteur m'a jamais fait rêver, en fait.
Okay.
J'ai fait l'acteur par accident parce que quand j'ai fait mes sketchs, personne voulait jouer dans mes sketchs. Donc c'est vraiment par accident, quoi. Mais la mise en scène, ça m'a toujours fasciné. Parce que la première fois que j'étais sur un plateau de cinéma, ce qui m'a fasciné, c'est le cadreur. C'est cette grosse caméra, c'est de raconter l'histoire. Et puis c'est de mettre mon œil dans la caméra, parce qu'ils étaient gentils avec moi, donc ils m'ont dit tu veux voir. Et le mec de banlieue de 20 piges que je suis, qui a jamais été sur un plateau de cinéma, j'ai envie de toucher tout. Et on me dit, bah regarde si tu veux. Et je regarde, et c'est incroyable de voir dans la caméra que c'est un autre monde, en fait. Ouais. Et c'était Jean Reno qui était dans cette caméra.
Wow.
Et donc là, il y a le vrai monde, avec les techniciens. Puis tu mets ton œil dans la caméra, et là, t'es dans un film. C'est mon premier rapport avec le cinéma, c'est ce qui m'a fasciné.
C'est génial.
Et puis après, quand Kassovitz m'a dit tu devrais faire un film, ma réflexion était de me dire qu'est-ce que je suis légitime à raconter moi. Je vais raconter ma vie de banlieusard, de mec de Melun.
Et ça donne les Caïras.
Et ça donne les Caïras.
Qui est génial.
C'est gentil.
Mais c'est vrai. Alors, là, j'ai joli le chat parce que tu avais une question qui te plaisait bien, qui t'intéressait.
Ben oui, parce que j'ai pas du tout envie d'éviter certains sujets.
C'est ça. Il y a Gamito qui dit Franck, c'est quoi ton point de vue
Oui.
Pour les reproches sur la vision que tu donnes des banlieues slash minorités dans tes films.
Exactement.
C'est quoi les reproches?
Alors,
le genre de faire du caricatural.
Exactement. C'est ça, exactement. Et ça, en fait, j'ai aucun problème à parler de ça. Au contraire, je suis content qu'on en parle. Parce que c'est un peu récent. Ça fait quelques années. Quand je fais les Kaira, quand je fais Pattaya, à l'époque, ces questions ne se posent pas vraiment.
Ouais.
Et depuis quelques temps, il y a une espèce de mouvance de « mais en fait, c'est mal. En fait, c'est cliché. Ouais. En fait, c'est caricatural. » Comme si on ne devait pas rire de nous-mêmes, de notre nez. Comme si on ne devait pas avoir d'autodérision. Et moi, je revendique le contraire. D'abord, les gens qui peuvent me critiquer sur ça ne sont pas plus de banlieue que moi. Donc moi, je parle avec mes codes de mec de banlieue. J'ai fait mon premier film dans ma banlieue, dans mon quartier à Melun. Donc je suis très à l'aise à raconter ça. Et surtout, ce qui est assez troublant, c'est, et un peu inquiétant, ça serait de se dire, en fait, quand on vient de banlieue, on n'a pas le droit de faire de l'humour de banlieue. On n'a pas le droit d'avoir de l'autodérision. Et c'est à ce moment-là où ça devient dangereux. Donc, elles sont minimes. C'est intéressant, là, par exemple, quand il parle de... Il y a une chanson de Cynique,
ouais.
où il me critique. C'est toujours amusant de voir un rappeur qui, de par son métier, est quand même lui-même un peu cliché, ouais. Ne serait-ce que dans son accoutrement, me dire que moi, je suis cliché. Ça m'a toujours un peu étonné.
C'est peut-être une recherche de clash, non ? De buzz, non ?
Oui, voilà. Moi, je rentre pas dans tout ça et okay. Ça m'intéresse pas. Et puis, encore une fois, t'as le droit de penser ce que tu veux. J'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai envie de rebondir sur le sujet, c'est que si on considère qu'il y a quelque chose de mal, alors il faut m'en expliquer les conséquences. Les Kaira, Pattaya sont des films qui... Les Kaira, ça a 11 ans. Pattaya, ça a 7 ans. Si ces films avaient eu des conséquences négatives...
Sur l'image des banlieues et de ses habitants.
On en aurait vu les conséquences. Mmh. En revanche, je peux te parler des conséquences positives. C'est que chacun de mes projets a lancé des carrières.
Ah ouais.
Moi-même, avec les Kaira et Mehdi, qui maintenant fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Malik Bentala avec Pattaya.
Ouais.
Et puis Validé, là, d'un coup, je prends que des jeunes qui n'ont jamais été acteurs et à qui je leur donne leur chance, tu vois. Mais... Pour être très honnête, ce qui est troublant, c'est que j'ai parfois été attaqué par l'extrême droite qui me reprochait de mettre en avant la culture de la banlieue, la culture même de la mixité. Quand on sort Validé, tu l'as peut-être vu sur le périphérique, il y a une affiche géante avec, Rebeu, Renoir, Métis, tu vois. Et puis ça devient un succès énorme. Et donc l'extrême droite, j'ai reçu des menaces de ça, des critiques de gens qui me reprochent de mettre en avant cette culture de la banlieue, cette culture de la mixité, et je me fous complètement de les emmerder. En revanche, quand il y a une espèce de minorité de banlieutologues qui viennent m'expliquer à moi, complètement enfant de la banlieue, qu'en fait c'est mal, là j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Puisque, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on s'autorise à avoir de l'autodérision sur nous. Et c'est aussi comme ça que moi, je me suis fait aimer dans la vie. Et c'est comme ça qu'on se fait aimer. L'humour, l'autodérision, oser rire de nous. Les Kaira, Pattaya sont des films dans lesquels les personnages sont drôles et attachants. En aucun cas, ils sont en train de donner une mauvaise image. Et s'ils donnaient une mauvaise image, dans ce cas-là, on en aurait les conséquences. Il existe des films dont on sait, et c'est inutile de les citer, mais dont on sait qu'ils sont parfois récupérés par le Front National, c'est arrivé il n'y a encore pas longtemps, ouais. Ils sont instrumentalisés, où le Front National dit « Regardez ce film, il montre ce qu'il se passe, etc. » Jamais une seule fois, les Kaira ou Pattaya ont été récupérés par qui que ce soit.
Je n'ai pas souvenir de responsable du RN ou du FN citer tes films.
Mais non, et en plus, la vérité, c'est que non seulement les personnages que je traite sont drôles et attachants, et ils sont faits pour qu'on les aime, ils sont pas faits pour qu'on ait peur d'eux, ils sont pas faits pour qu'on ne les aime pas, ils sont pas faits pour générer une angoisse, tu vois. Moi, je suis embêté avec... je suis de banlieue, je suis inquiété et embêté par les films qui montrent une banlieue effrayante. Moi, je montre une banlieue dans laquelle on rigole, tu vois. Donc, ces critiques... J'ai toujours été très à l'aise pour en parler, en tout cas, parce que je suis en désaccord.
La preuve, c'est toi qui t'es emparé de cette question.
Ouais, c'est moi qui veux en parler, bien sûr.
Non, mais ce qui peut aussi être déstabilisant, gênant et même provoquer de la compréhension, c'est que là, les critiques que tu évoquais sur tes films, elles venaient quasiment de deux extrêmes opposés.
Ouais.
D'un côté de l'extrême droite,
ouais,
et de l'autre côté des gens...
qui sont les concernés, normalement.
Oui. Et qui à un moment se définissent eux-mêmes comme des spécialistes de la banlieue ou qui pensent savoir ce qui est bon pour les banlieues.
Ouais, ouais.
Et du coup, c'est deux camps qui sont censés être opposés et qui se retrouvent pour se critiquer toi. Donc à un moment, c'est un peu déstabilisant quand même.
Oui, et puis tu sais, la vérité aussi, c'est que quand... moi, je fais attention à ça. La vérité aussi, c'est que l'époque évolue et que quand on me critique sur un film qui est sorti il y a 11 ans, peut-être que maintenant il y a des vannes qu'il y a dans les carrières que je ferai plus, peut-être, tu vois. Mais est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que à aucun moment ma volonté n'a été de blesser qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut qu'on se méfie quand on commence à s'imposer des règles. Attention, ça, il faut pas rire. Attention, ça, c'est pas bien, faut pas en parler. C'est un peu dangereux quand on commence à être comme ça. Et encore plus quand il s'agit de faire de la comédie. Et quand on parle de la caricature, mais c'est le propre de la comédie de caricaturer. Moi, mon point de vue de mec de banlieue qui n'a pas de leçon à recevoir d'autres mecs de banlieue de comment on traite la banlieue, d'autant plus que je peux pas la faire avec plus de sincérité, je la fais dans mon quartier à Melun, mon premier film, c'est ça, avec mes codes à moi. C'est-à-dire que
le truc que tu connais.
C'est même pas un film sur la banlieue, c'est un film sur ma banlieue à moi. Et de ma vie à moi de mec de Melun complexé. J'ai pas de leçon à recevoir sur comment je vais traiter ça. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est la manière dont je décide de le traiter. Mais là où je dis qu'on a un problème, c'est que, même si c'est très minorité, hein, c'est une minorité tout ça, mais là où c'est dangereux, c'est qu'on se dit, ok, alors, Danny Boone peut parler de son monde à lui, des ch'tis. On peut faire La vérité si je mens, avec les juifs. On peut faire Les Tuches, où on se moque un peu du mec de province. On peut faire Les Bolos, on peut faire, et on pourrait pas faire Les Caera. On pourrait pas faire Pattaya, on pourrait pas nous-mêmes avoir de l'autodérision sur ce qu'on est. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je revendique qu'il faut qu'on ait la possibilité de rire de nous, tu vois. Et en plus, je ris de nous avec bienveillance, au point même que je me mets moi-même en scène là-dedans.
Mais on la sent dans tes films. On la sent, cette bienveillance.
Ah ben oui,
pour tes personnages, pour...
Je suis le...
Même les salauds, les méchants, ils sont attendrissants.
Bah, c'est Ramzy, mon méchant des Caera. Ben oui, bien sûr. Non, mais évidemment, voilà, il faut qu'on s'autorise à ça.
Les cheveux.
Oui, c'est pas bien méchant, tout ça, tu vois. Et voilà, moi, je crois beaucoup en l'inverse. C'est-à-dire que quand on me dit, mais c'est cliché, c'est caricature, mais c'est l'inverse, en fait.
Il y a quelque chose que tu viens d'évoquer que je trouve très pertinent aussi, c'est que l'humour, c'est sans doute le reflet d'une société. Il y a des blagues d'il y a 20 ans qui nous feraient pas rire du tout aujourd'hui, tu vois. Là, tu parles de films qui ont parfois 10 ans, effectivement. Et effectivement, tu peux pas juger, je crois, une œuvre artistique produite d'une époque, ou un humour produit d'une époque, miroir d'une époque, 10 ans ou 15 ans après, quoi. Ça n'a pas de sens.
Non,
je crois. Hein.
Non, mais c'est pour ça que quand. Un rappeur ou je ne sais qui veut m'attaquer en parlant de mes films d'avant, crois-moi que les rappeurs, si tu vas fouiller leurs textes en général, tu vas aussi tomber sur des trucs pas top. Mais je me suis retrouvé à entendre des critiques pour lesquelles je suis toujours ravi de répondre, parce que si je pensais que je faisais quelque chose de mal, je me dirais, bah viens, on parle pas de ça, Samuel, viens, on parle pas de ça. Là, je vois, je veux parler de ça. Je veux parler de ça parce que je pense même que c'est dangereux.
Oui, il y a Fricassé de Fèves au Bellota, qui dit sauf Coluche. Et non, justement, je suis sûr que Coluche, si par bonheur il était encore là et qu'il faisait les blagues qu'il faisait à l'époque, que moi j'ai bien connues parce que c'était ma génération, je peux vous dire que tout le monde tomberait dessus. Coluche pourrait plus faire plein de vannes qu'il a faites aujourd'hui.
C'est sûr.
Et d'ailleurs, il en ferait d'autres.
Ouais, ouais.
Il en ferait d'autres.
Non, mais c'est sûr.
C'est juste que tu peux. Mais donc, dites pas que Coluche serait pas critiqué aujourd'hui. S'il faisait les mêmes blagues, bien sûr. Quelqu'un disait, tu parlais des gens que tu as un peu révélés, que tu as mis dans la lumière. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de Pomme Clémentieff.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, immense star, Marvel.
Incroyable.
Les Gardiens de la Galaxie, tout ça, quoi. Et un de ses premiers films, c'est chez toi.
Ben ouais, les Kaira.
C'est son premier ? C'est un de ses premiers ?
En tout cas, elle n'avait pas beaucoup tourné. Je ne sais pas si elle avait fait des choses avant.
Je crois qu'elle avait fait. Alors, soit que c'était après, c'est le film avec, de Vanier où elle est dans le.
Ah oui, c'est vrai.
Avec les loups, là. Mais exactement. Je ne sais pas si c'est avant ou après.
C'est après.
C'est après ?
C'est après.
Donc, ouais.
Écoute.
Pomme Clémentieff.
J'étais avec elle il y a deux semaines à Disney pour l'avant-première de okay. Gardiens de la Galaxie. C'est quand même fou de voir cette nana qui faisait ma chérie, enfin la fille dont je suis fou amoureux. Dans les Kaira, là encore, un peu biographique, autobiographique, parce que dans les Kaira, j'ai mis toute ma vie, quoi. Et bah, c'est fou, hein. Enfin, c'est pas moi qui l'ai révélé, c'est son talent qui l'a révélé. Hein,
mais... Oui, mais t'es un des premiers à la faire tourner. Pour ceux qui connaissent pas Pomme Clémentieff, alors moi, je vois très bien qui c'est parce que c'est une actrice que j'ai vue démarrer et que j'ai trouvée extrêmement talentueuse très très tôt. Alors, je vais vous montrer son visage civil, on va dire. Voilà. Donc, ici, c'est Pomme. Voilà. P-O-M. Voilà. Et puis je vais vous montrer aussi le personnage qu'elle incarne dans Les Gardiens de la Galaxie, ce qui va sans doute parler à plein de gens. Voilà.
Mantis.
Et voilà, c'est elle aussi, Pomme. Pomme qui vit depuis des années aux États-Unis, si je dis pas de bêtises.
Ouais, elle est à New York maintenant.
C'est ça. Hein,
elle était à Los Angeles pendant un moment et elle vient de New York.
Moi, je me rappelle parce qu'on échangeait un petit peu. On s'était croisés et elle faisait du théâtre aussi.
Ouais.
Et à un moment, elle me dit, ah, bon, écoute, Sam, on devait se faire un truc de boulot. Elle me dit, ah, ben, je pourrais pas venir parce que j'ai décidé de partir aux États-Unis, tente ma chance. Et ça a donné ça.
Et puis il y a pas que ça, hein. Il y a Mission Impossible, il y a un film avec Spike Lee. Enfin,
oui.
Moi quand je l'ai vu arriver à Disney avec Vin Diesel, Chris Pratt, et je me dis c'est ma petite Pomme qui jouait ma chérie que j'ai ramenée à Melun pour tourner mon film, c'est incroyable.
Vous êtes resté en contact du coup ?
Oui, on est en contact, on s'est vu là à Disney.
On a beaucoup parlé aussi de ton prochain film qui sort le 2 juin. On va aller voir la bande-annonce. C'est parti. Alors, je ferme quelques fenêtres, j'en ai ouvert 1000. Alors, touc, touc, touc. C'est pas bon, sur YouTube. Alors, c'est parti. Alors, rappelle-moi le titre.
Medellin.
Bien sûr. Je crois que c'est avec deux L. Hein. Medellin, voilà.
Un bonjour de Melun, nous, on est fiers de ton parcours ici.
Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette bande-annonce. Je l'ai vue déjà plusieurs fois. Elle fait.
Tout a commencé.
Hop, elle fait très envie. Et notamment. Parce qu'il y a une surprise au niveau du casting.
C'est le rêve de
Ben, cette surprise de fou, quoi. Attends, je la mets bien. Non, c'est pas ça. Je vous la prépare, la bande-annonce. On est là, mais on n'est pas là. On est là. Voilà. Donc, Medellin, ça sort. Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est un peu fort. Le 2 juin. Voilà. Et c'est sur Amazon Prime. J'espère que vous allez aimer autant que moi. Moi, je me suis régalé avec cette BA. J'espère que le son n'est pas trop fort. C'est parti.
Tout a commencé il y a 3 jours, avec cet appel.
Ouais, Reda,
viens tout de suite.
L'enlèvement de ce jeune influenceur
par des hommes du cartel de Medellin.
Tu vas me laisser aller seul, sauver la vie de mon petit frère? On va pas aller à deux affronter les mecs du cartel de Medellin.
Vous n'êtes pas à deux, messieurs. Je suis là.
Bon, ok, on est deux. Ces mecs-là, c'est pas les petits du quartier à qui tu mets des coups de pression.
T'insinues que je mets des coups de pression aux petits?
Ok, rien, vas-y, Rebe.
Tienes mi hermano? Tenemos un narco!
C'est quoi ce bordel? On est complètement parti en couille, là!
Tu gardes ton calme.
Hola! Hola, señor! ¿Cómo estás?
Tu vas à mourir.
Hé, hey, moi, y'a pas de mourir,
non,
moi!
Non,
mais c'est qui tu laisses? Prends pour qui,
y'a moi?
Amigo?
T'as dit que tu gardes ton calme!
Ok, je prends le gagnant.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a un homme.
Attention.
Pour vous aider.
Petite surprise sympa. Eh ouais.
My God, yeah, bro.
Eh ouais.
Pourquoi tu l'embrouilles pas comme les autres, lui?
Eh ben, il est sympa, j'ai pas à l'embrouiller.
Oh, la dinguerie!
Ok, thank you.
Il est mieux le tien.
Il a un viseur dans
le tien, il a ça.
Il est mieux.
T'as bien l'échange,
t'as bien
l'échange.
Bah viens, donne-le
marron. Oh, oh.
Fucking game, come on, man.
Whoa. Whoa.
Attends.
Non, mais c'est cool de voir vos réactions en direct.
C'est dans
en fait.
Longtemps, c'est dans 20 jours, c'est trop loin, ça va pas du tout. C'est dans 20 jours, c'est 3 semaines.
Ouais.
C'est trop long là.
Ouais, pour moi aussi, parce que j'ai vraiment hâte d'avoir les retours des gens là.
Mike Tyson.
Ouais, c'était drôle de voir défiler toutes vos réactions quand il y a Mike qui a apparu.
Mais je pense que la bande-annonce a quelques jours, elle est pas très vieille. Hein.
Ouais.
Donc il y a plein de gens qui l'avaient pas vu en fait.
Et demain, on balance l'affiche à 18h sur nos réseaux et Mike Tyson balance l'affiche internationale sur son Instagram. Ça, c'est quand même très cool. Mike Tyson a déjà posté la bande-annonce. Ça, je t'avoue que quand tu vois Mike Tyson qui te mentionne et qui poste ta bande-annonce, tu te dis ok, c'est cool là.
Comment tu te retrouves avec Mike Tyson dans ton film ? Est-ce que au moment où tu l'écris, tu penses à lui ?
Ouais, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bah écoute, c'est le rêve de gosse, hein. Mike Tyson, c'est au-delà de la star, c'est une légende. Hein. Donc j'en rêvais et on a réussi. Donc c'est aussi pour ça, pour être totalement honnête, parce que j'ai compris qu'ici on dit tout.
Ouais.
C'est aussi la puissance de Prime Video finalement. Okay. En tout cas, la puissance d'un studio américain, parce que si j'avais refait un film français, je suis pas sûr qu'on pouvait le toucher. Donc, je lui écris une belle lettre, et puis ensuite, tu sais, il y a ces agents qui vérifient qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait.
Ils vont voir tes films.
Ils vont voir les films, ils s'intéressent à toi, ton parcours, et puis ensuite, ils lisent le scénario et le rôle. Bon, les gens se rendront compte que c'est pas qu'une apparition, hein. Il a tourné plusieurs jours avec nous. Ouais. C'est un vrai rôle. Et il a été séduit par l'idée, et il a accepté donc de partir du fin fond de Los Angeles pour nous rejoindre. Là, je vois des gens qui disent c'est une histoire de pognon, mais la vérité, c'est que Mike Tyson n'a pas de problème d'argent. Et pour qu'il décroche de sa vie et de sa famille de Los Angeles pour venir au fin fond de la
envie de faire le film,
c'est qu'il y a aussi de l'envie. Évidemment, voilà, que les gens sont payés, on est tous payés.
La question, c'est de Crab Kit, c'est est-ce que les agents de Mike Tyson ont vu la scène du caca?
Tu vois, pour le coup, tu veux que je te dise, la seule chose qui m'a aidé artistiquement, bah il y a deux choses qui comptent. C'est qu'en anglais, c'est quand tu leur dis, je vais pas te la faire en anglais, mais c'est quand tu leur dis, chaque projet de ce metteur en scène français sont des succès. Okay. Ça compte pour eux.
Ça ils comprennent.
Et l'autre chose, c'est il a fait la première série sur le hip-hop en France et ils viennent de la vendre à HBO puisque Validé a été vendu à HBO.
J'ai vu.
Et ça, ce sont des choses qui, c'est suffisamment fort pour qu'ils considèrent ta proposition. Et puis ensuite, ils lisent le rôle. Et c'est seulement après que l'histoire d'argent arrive, mais il faut d'abord qu'il ait envie de quitter sa vie et sa famille pour venir tourner avec nous.
Il n'a pas tourné dans beaucoup de longs métrages. Je dis une bêtise où on le voit dans.
Il est dans Very Bad Trip.
Hangover, voilà. Very Bad Trip.
Ah ouais, ça c'est évidemment ça, bien sûr. Ouais.
Mais c'est
culte.
C'est le seul souvenir que j'ai. Il a peut-être tourné dans d'autres longs métrages.
Probablement, mais moi c'est vraiment le Tyson de Very Bad Trip que je voulais, quoi.
C'est ça. Et il est là, quoi.
Et il est là, et alors quand il arrive, c'était fou. Alors.
Je bouge le cadrage, regarde, en direct, parce que c'est vrai que hop, la caméra a bougé, on ne voit pas assez.
C'est nous qui avons fait une bêtise ?
Non, voilà. Hop, c'est ce que j'aime chez Twitch. On est mieux là.
Pour l'anecdote sur Tyson, l'anecdote la plus folle, c'est qu'il doit arriver la veille à Bogota. On tourne cette scène à Bogota, puisqu'on a tourné une partie à Bogota et une partie à Medellin.
Tout en Colombie, hein ?
Tout en Colombie, ouais. À le début du film, on a deux jours à Paris qui est avant qu'on parte.
D'ailleurs, je suis dedans, vous me verrez. C'est le gros mytho.
Et en fait, y a un problème d'avion, c'est pas de sa faute d'ailleurs, et il loupe l'avion qui devait le faire venir la veille. Et il arrive en retard, et non, il devait arriver deux jours avant pour les essais costumes, etc. Et la veille, il arrive à 21h, et on me dit, va le voir à l'hôtel. Et donc, la première rencontre doit se passer dans son hôtel. Je te raconte des détails. Mike Tyson. Il y a un agent de la CIA qui vient vérifier où il arrive, d'abord. Il y a l'armée colombienne qui l'escorte. Il y a l'étage entier d'un hôtel qui est privatisé. Et moi, je suis ultra impressionné. Et on me dit, à 21h, tu vas rencontrer Mike Tyson. Donc, et se parler du rôle, etc.
C'est fou.
Je descends de mon hôtel. Je vais dans le taxi, le chauffeur qui m'emmène là-bas, de la production. Et au moment où j'arrive, on m'appelle. On me dit, écoute, Mike est de mauvaise humeur. Tu le verras demain. Donc, moi, je me dis, mais... Ok, donc je vais le voir quand il arrivera sur mon tournage. Mais comment on fait s'il est de mauvaise humeur encore? Parce que comment on gère Mike Tyson de mauvaise humeur? La dernière fois que je l'ai vu de mauvaise humeur, il était dans l'avion, il mettait des tartes à un mec. Donc comment on va gérer ça, quoi? Et donc je dors mal. Et je me rappellerai toute ma vie, je suis dans la voiture, je fais une photo de moi dans la voiture. Et j'envoie à Sabrina Ouzani pour lui dire, ça y est, j'ai rencontré Mike Tyson. Et
Attends. Je t'interromps, on me dit qu'il y a Anouar dans le chat.
Ah, c'est possible,
qui
ça.
Qui est avec nous.
Ah, bah, Anouar, c'est un mec
il
de Twitch.
Il y a tout le monde qui... Anouar, mini DJ.
Oui, c'est lui.
Ah, bah, merci. Eh, oh, c'est formidable.
Anouar est là.
Ah, formidable.
Anouar est dans la maison. Oui, Anouar est DJ aussi. Hein.
On a parlé de toi en bien tout à l'heure. Pardon, je t'ai interrompu.
Mais je pense qu'il écoute depuis tout à l'heure.
Je voyais plein de messages, en fait. On lui disait qu'il était là, voilà.
Donc, ouais, Anouar, il est fort sur Twitch. Il mixe sur Twitch. Je vous invite à aller voir. C'est
attends,
quand même incroyable.
Attends, mais il y a une chaîne.
Ouais.
Oh, attends, je vais la voir pendant que tu... Finis-nous l'histoire de...
Bon, et je me retrouve à aller rencontrer Mike Tyson le jour même du tournage. Ouais. Et donc, j'arrive sur le tournage où je sens que l'ambiance est particulière. Encore une fois, il y a l'armée, il y a des agents américains.
Tu l'as toujours pas rencontré, ouais, d'accord.
Non. Et je vais dans sa loge. Donc, il y a des gardes du corps colombien qui sont devant et qui me disent « Ok, tu peux monter dans la loge. » Et Anouar le goat.
J'ai sa chaîne.
Et je vais dans la loge et il y a Mike Tyson, quoi. Il est au maquillage et il tourne sa tête, là, côté tatouage. J'ai préparé des petites phrases en anglais, tu vois. Et je lui dis « Mike, hein, je suis très heureux, très honoré que tu sois là. On va faire du bon travail. » Et on a dit « Ok, Frank, we make a great job. » Et c'est tout ce que je me souviens à ce moment-là. Je suis un peu bouleversé. Il y a sa femme, je dis bonjour. Et bon, ouais. Ils ont dû me trouver un peu, tu vois. J'étais pas dans mon état normal. Tu vois, t'es pas dans ton état normal. Et je sors, et devant la loge, il y a Ramzy qui m'attend. Et il me dit, il est vraiment là? Et je lui dis, je te jure, il est là. On va jouer avec Mike Tyson. Il y a Mike Tyson dans le film. Et à ce moment-là, tu sais déjà que c'est fou. Tu sais qu'on va ramener en France un film où il y a Mike Tyson dedans. Donc on passe, il tourne 4 jours avec nous.
Et le tournage s'est super bien passé.
Ouais, tu vois, le matin au début, il était un peu stressé parce qu'il sait qu'il n'est pas acteur. Donc, tu vois, il a peur de mal faire, il a peur qu'on soit déçu. J'ai vraiment senti ça.
Ah ouais.
Il voulait que sa femme reste pas loin. Enfin, il était un peu stressé. Et puis finalement, il s'est vite détendu. Et là, on a vécu un tournage incroyable parce que... il retournait plus dans sa loge ensuite entre les prises, il restait avec nous, se marrait. On a appelé Cyril Gane d'ailleurs en vidéo où je dis regarde qui je suis et tu me montres Mike Tyson. Non, on était comme des gosses. J'ai le souvenir avec Ramzy parfois entre les prises où on se regardait avec Ramzy, on se disait, je me rappelle de Ramzy qui me dit profite, on tourne avec Mike Tyson, c'est incroyable. Non, c'était plein d'émotions. Et Mike Tyson sur notre film, c'est la première fois qu'il joue dans un film français. Vous verrez, il a un vrai rôle. Il est étonnant. Il joue d'ailleurs des choses avec Anouar, très drôle.
Bah attends, je regarde. J'ai mis la... Parce que je savais pas qu'Anouar était sur Twitch. Donc je le découvre grâce à vous. Voilà, là j'ai sa chaîne. Voilà, là je te follow, Anouar, là, depuis ce soir. Top. Et là, on a la bio avec un descriptif de ce que tu fais. Et bah, t'as rien mis. Voilà. Donc, mais on m'a dit tout à l'heure que tu streamais notamment un jeu vidéo. Anouar, est-ce que tu peux nous indiquer quand est ton prochain live? On me dit que tu es sur FIFA notamment. Me dit à sa bibi. Voilà, c'est drôle. Voilà. Mais merci beaucoup à Noir d'être avec nous. On a parlé de toi tout à l'heure, tu pourras le voir en replay. Et en bien.
En très bien, très évidemment.
Bien,
très
bien. Et on s'est refait une scène, on a refait une
scène. On s'est refait Pattaya.
On s'est refait la scène des toilettes dans Pattaya. Il live plus. Il a arrêté, on me dit. Voilà.
Ah bon,
il live plus, peut-être trop occupé. Voilà. @ Enzo Pin, Julo nous disent que.
Attends, bon, on va l'appeler. Ouais. Attends.
On l'appelle.
Comment ça, il live plus, ça m'étonne.
Bah, peut-être qu'il est trop occupé. Regarde, j'ai arrêté Twitch. Ouais, voilà. Peut-être qu'à mon avis, il est trop occupé. On t'appelle. Salut Anouar.
Salut Samuel.
Ça va?
Ah oui?
C'est une autre ambiance. C'est plus adapté à ce que je fais, je pense.
Ah, c'est ça, là. Bon, attends, je te montre aux gens quand même.
Anouar nous dit qu'en fait, il est plus sur TikTok maintenant.
Anouar,
et qu'il préfère.
On voit, ouais. Salut à tous.
On te voit. Donc, plus sur TikTok
moi,
maintenant.
Je suis là en tant que viewer. Je vous écoute. Et voilà, je ne veux pas trop attirer l'attention. C'est
C'est une super surprise, merci à toi.
Et à ton chat.
Merci à toi.
Merci à Noir.
Et je vais venir te voir sur TikTok du coup.
D'accord, bon stream les gars.
Merci.
Salut.
Bon, sachez que Anouar, donc du coup maintenant si vous voulez le voir, il est plus sur Twitch, sa chaîne existe toujours, mais il est sur TikTok, voilà. C'est bien, il y a plein de surprises.
On a du guest hein,
attends,
ce soir.
Attends, Gann qui nous appelle, qu'on voit tout à l'heure. Anouar,
pas du tout prévu.
Pas du tout. Appelle Mike Tyson.
Alors Mike a pas de téléphone, il a toujours sa femme avec lui et c'est sa femme qu'on appelle, qui est ultra réactive. Voilà.
Une espèce de voilà.
Ouais, et puis je pense que bon Mike c'est quand même une personne particulière, hein. Tu vois, c'est la légende.
Quelqu'un
quoi.
Demandait dans le chat tout à l'heure, donc bah oui, t'as commencé à le raconter quand t'étais comme un petit garçon quand tu l'as vu.
Ah oui.
C'est ça.
Ah oui.
La première fois.
Bah la vérité, n'importe quel être humain est comme un petit garçon quand il y a Mike Tyson. Déjà par rapport à ce qui t'envoie. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo où il y a un mec qui le fait chier dans l'avion et à qui tu connais cette vidéo.
Non.
Ah
bah, non,
mais
non.
Tu tapes Mike Tyson avion.
Attends, hop.
Mais alors, je peux te dire que quand tu es face à Mike Tyson...
Je l'ai pas vu, moi. C'est parti.
Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce mec pour se dire, à un moment, je vais aller faire chez Mike Tyson.
Je tape en anglais, plane. C'est là, hein.
Ouais.
Ouais.
Donc, le mec est un peu... je pense que le mec a bu, quoi, tu vois.
Ah oui,
t'as vu ça?
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour faire ça à Mike Tyson? Tu vois. Et il le fait chier, et c'est Mike Tyson, donc à un moment...
Il est bourré, c'est pas possible, il est sous stupéfiant, quoi.
Parce que je peux t'assurer que... il est terrorisant, voilà. Et alors qu'il a été adorable avec nous, mais il a un côté où il est glaçant. Il a le regard un peu fou, et il te fait peur, quoi.
Ah oui.
Voilà. Là, il faut arrêter la bête, hein, dans ces moments-là.
Ah, je me rappelle cette vidéo. Bon, après, il a retenu ses coups, hein.
Ouais, bah évidemment.
En vrai, là, il est en mode caresse, là.
Ouais.
En mode caresse, quoi. Donc, 4 jours géniaux avec. Un tournage comme ça, Franck, ça dure combien de temps?
Ça dure 3 mois, ouais. Avec 4 mois de préparation avant. Tu sais,
c'est énorme, 3 mois.
Ouais, bah, c'est parce que c'est un film d'action.
Parce que moi, comme je sais que le cinéma coûte très cher, j'avais lu. Je sais plus où, qu'en fait les tournages duraient beaucoup moins longtemps qu'on pensait,
ouais.
Pour comprimer les coûts, et donc je m'attendais à, je sais pas, 2 semaines de tournage. Tu parles de 3 mois?
Non, 2 semaines, c'est un petit téléfilm se tourne en 2 semaines.
D'accord.
Tu vois, là du cinéma d'action, c'est très long.
Il faut ça.
Et puis c'est beaucoup de prépa avant, parce que t'imagines bien que tu te retrouves pas au milieu de Medellin et puis tu lances des voitures à 200 à l'heure, des explosions. C'est du moment où tu as l'idée de te dire, bah, je vais faire un film à Medellin, dans cette ville chargée d'histoire avec Escobar, etc. Et le moment où tu tournes, bah ouais, il se passe des mois et des mois de préparation, d'autorisation.
Donc 3 mois de tournage.
Ouais.
Et avant, t'es même sur place déjà un petit peu avant.
Je suis 4 mois avant.
Ah, t'as fait 7 mois.
Ouais. Avec des allers-retours, mais oui, pour préparer un film comme ça, c'est ça. Mais en général, tu passes 2 ans de ta vie sur un film comme ça. Tu passes une année à l'écrire et une année à le fabriquer. Voilà. D'où la question du début du stream de comment tu fais quand les critiques sont pas bonnes, quand t'as passé 2 ans de ta vie.
2 ans de ta vie.
Ouais. Validé, c'est 3 ans de ma vie. C'est ouais. 2 saisons. Tu passes 3 ans à faire ça.
C'est ouf. Alors on a parlé.
Il y a quelqu'un qui dit imperturbable, même position depuis 2 heures. Mais parce que je sais pas si j'ai le droit de bouger ou
mais
pas.
Mais en fait, mais Franck nous a posé la question au début. Il a dit mais je sais pas comment me mettre sur Twitch. Bah je lui dis bah il y a pas de.
Et c'est vrai, ça fait 2 heures. Mais putain, alors là pour le coup.
1h40.
Eh ben j'ai rien vu passer.
Mais ouais, mais en fait.
Ça m'a effrayé quand tu m'as dit mais on va rester 3 heures.
Non, en fait tu on peut un peu arrêter 2 aussi. Tu vois ce que je veux
dire? Non, mais c'est très.
Parce que mais je pense que tu commences à comprendre pourquoi en fait le temps passe très très vite sur Twitch.
Voilà. Ouais. Ah oui. Voilà. Voilà.
Mais à un moment, tu vois, t'as une vie aussi. Puis je pense que t'as été pas mal occupé.
Oui, mais là, elle est consacrée à toi ce soir, ma vie. Tu es mon date.
Et si on regardait la bande-annonce de Medellin? Parce que là, on.
Mais on l'a vu déjà.
Mais non.
Mais bien sûr que si, avec Tyson et tout.
Ah, oh, c'est vrai.
Ça va.
Mais j'aime tellement cette bande-annonce que. Mais je l'ai vu 4 ou 5 fois déjà.
Demain, on envoie un petit teaser.
Je voulais la remettre.
Demain, on envoie un teaser et une nouvelle affiche demain.
C'est pas beau d'y aller, tu te rends compte? Fais gaffe hein, quand tu vas passer les 50.
J'aurais pu faire comme si j'avais pas entendu, on la re-revoyait.
Putain, j'étais persuadé.
Mais tu te serais rendu compte quand même qu'on l'avait déjà vu.
Ah bah oui, c'est vrai. Mais j'ai tellement vu que je m'étais pas rendu compte qu'on l'avait regardé ce soir. Je l'adore cette bande-annonce. Dis-moi que le film est encore mieux.
Ouais, le film est mieux. Et puis je te promets qu'il y a des twists et des moments très importants qui sont pas dans cette bande-annonce.
Et tu vois, la critique que j'avais sur les bandes-annonces tout à l'heure, les bandes-annonces, t'as l'impression de voir tout le film. Bah, ouais. Là, j'ai pas eu l'impression. Y a pas trop de trucs. Ça donne envie.
Écoute, il y a beaucoup de choses sur l'action, si on se dit tout ici, là, parce que c'est le but, c'est de montrer qu'il y a des choses en action. Mm-hmm. Mais le film fait 1h40 et la bande-annonce dure 1 minute 30, donc je te promets qu'il n'y a pas tout.
Bon.
Enfin, ça aussi, et les gens, ils disent, et si on regardait la bande-annonce de Medellin?
Vous avez raison. Hein. Et j'étais persuadé qu'on ne l'avait pas vu. Comme je l'ai vu plein de fois avant, du coup, je ne savais plus si on l'avait passé ce soir. Mais si jamais je vois une autre bande-annonce arriver, je ne la regarderai pas, exprès. Ah ben non, je ne veux pas. J'attends le film, 3 semaines. 3 semaines, ouais, c'est pas mal. On sera. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 1h40 en plus, je peux... voilà. Parce que tu sais, à mon âge, tu verras un jour. Le soir, tu sais, pour m'endormir, je me mets un petit coup de Netflix, d'Amazon, ouais. Série, film, tu vois. Genre, ouais. Dans la liste, comme tout le monde, que je me suis mis de côté. Et comme je dors très peu à cause de mon taf et que je suis assez, bon, parfois dans un état bizarre, ben, en général, je regarde 10 minutes. Imagine le nombre de jours qu'il me faut pour regarder un long métrage.
Ah oui.
Tu vois,
ouais.
Et parfois, parce que parfois ça m'arrive d'en louer, tu vois, les derniers trucs sortis, et ben il faut que je le loue plusieurs fois.
Ah merde.
Là, je sais plus ce que.
Pour le finir, ah oui.
Je sais plus ce que j'ai
ouais,
loué.
Ouais,
là.
Je comprends.
D'accord, tu vois.
Mais est-ce que t'as pas l'impression que.
Je reloue.
Est-ce que t'as pas l'impression que. Parce que moi, je suis un peu accro au réseau, un peu accro à TikTok.
Ouais.
Et ça nous prend du temps pendant lequel on regarde pas des films et des séries, clairement.
De quoi ?
Les TikTok, Twitch, etc. On a remplacé ça, tu vois.
Ouais, puis c'est pas forcément. Tu vois, moi, je suis un accro à Twitter. Je passe vraiment, je pense.
Intéressant sur
Escobar. Je te mets de côté. Hop, ici. Je pense passe 2 à 3 heures facilement par jour sur Twitter, qui est pour moi une source d'information.
Oui.
Tu vois. Mais sur ces 2-3 heures là, quel est le temps vraiment intéressant où j'apprends vraiment des choses et le temps où je scrolle un peu pour rien et où je tentais de réagir à des polémiques un peu nazes. En vrai, il faudrait que je passe moins de temps pour
regarder
des films, lire des bouquins, faire du sport.
Non, mais il y a un truc sur Twitter qui est merveilleux, c'est l'immédiateté de l'information qui fait que tu as envie de te connecter tout le temps pour voir quelle est l'info qui vient de tomber.
C'est bien foutu,
ouais,
c'est très addictif. Avant de prendre cette question, on me signale, parce que dans le chat on est très attentif à ça, que ton verre est quasiment vide. Et on me dit, Samuel, tu n'es pas un hôte très attentif.
Mais c'est moi qui me remplis tout à l'heure. J'ai descendu la bouteille dans
le vide. Il y a une bouteille, parce que Franck est à l'eau.
Moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je ne sais même pas le goût que ça a.
Tu parles à un breton, si tu veux. Qui...
Oui, je suis désolé, hein, mais j'ai aucun jugement dans ce que je viens de dire.
Ah, ouais.
Parce que les gens, des fois, ils pensent que ça, du coup, ça fait de toi un mec un peu. Mais pas du tout. J'ai jamais fumé une clope de ma vie, jamais fumé un joint.
Et l'alcool. Enfin, pourquoi t'as pas. Enfin, à un moment dans la jeunesse, tu sais, on a
envie
de tenter l'interdit.
En fait, dans la jeunesse, j'ai toujours été le mec qui ramenait les autres qui étaient bourrés, qui évitait les bagarres.
Le bon samaritain, un peu.
Ouais, et puis surtout,
tiens.
J'ai. Alors, en fait, j'ai des petits traumas, pas du tout de la famille, mais de potes ou de copines que je trouvais absolument ridicules quand ils étaient bourrés. Et j'avais très peur qu'on me voie comme ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Balance.
Non, mais.
Balance, tu te souviens très très bien.
Non. C'est...
Balance. Sandrine, quand tu te vomissais dessus.
Bah oui, c'est ce genre de truc. Ce genre du truc où d'un coup, cette fille que tu trouvais jolie, d'un coup, elle est nulle, elle dit n'importe quoi, et ton pote, il est ridicule, et toutes les filles se foutent de sa gueule parce qu'il est bourré, et tu dis, je veux pas être ce gars-là. Okay.
T'as pas bu.
Et j'ai jamais bu de ma vie.
Tu t'es jamais mis la tête à l'envers, en fait.
Je sais pas ce que c'est de bourré.
Oh, c'est incroyable.
Ouais. Et des fois, on me croit pas carrément, mais j'ai jamais bu de ma vie.
Et regardez le résultat, cet homme a 75 ans, et regardez cette peau de pêche.
Pas non mais
et pas fumé non plus.
Non, j'ai une addiction terrible, c'est le sucre, les gâteaux, ça c'est un énorme problème. Cédric Grolet est un gros problème dans ma vie par exemple.
Qui ?
Cédric Grolet, le pâtissier.
Ah pardon.
Ça c'est un gros problème dans ma vie. Mais
il est à Paris ? C'est
sympa. Ah oui, il est à Paris, oui. Je peux te donner les adresses, les heures auxquelles y aller. C'est un très gros problème dans ma vie. Non, voilà, c'est ça. Mais donc voilà, et puis donc non, jamais bu, jamais fumé, jamais été bourré, jamais perdu le contrôle en fait.
Ouais.
Tu vois, ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit t'as vu bourré une sortie, ça n'existe pas.
Plus le fait que t'es super sportif.
Ouais, enfin j'essaie d'être sportif. Ouais.
Depuis toujours peut-être.
Oui.
Depuis toujours.
Oui.
Ah, cool.
Ouais.
Tu vas nous bousiller le système de retraite rien qu'à toi parce que tu as jusqu'à 150 ans. Quoi. Il a 75 ans ce gars. Mais regarde dans quel état il est. Il est incroyable. C'est fou quoi. Les gâteaux, c'est... Ouais. Moi j'ai arrêté les gâteaux parce que comme j'ai arrêté le sport pour pouvoir streamer, il a fallu que... Donc j'ai tout de suite oublié le... Je bois quoi ? Bah, du café comme d'habitude les amis. Voilà. Bah, moi j'ai... Jeune...
Tu étais un ami des belles.
Je picolais moi.
Ah oui.
Bah tu sais, j'étais... Alors je veux pas insulter, accuser les bretons qui sont dans le chat. Je suis breton, j'ai le droit à un peu d'autodérision envers les bretons. J'ai été breton, enfin je suis breton, mais j'ai vécu de 0 à 18 ans à Rennes. Rennes qui est une magnifique ville pour faire la fête. Et de 15 ans à 22 ans, je fais la fête 2 à 3 fois par semaine, en faisant le mur à 15 ans, c'était génial. et je me prends des... Ouais. Ça picole quoi.
Ouais.
C'était... On faisait un peu tout ça quoi.
Ouais, bien sûr. Ah, bah, non mais moi c'était même un peu excluant, hein. J'ai toujours été le seul qui buvait pas.
Ouais mais tu ramenais les gens.
je ramenais les gens et en général je ramenais les filles aussi, puisque quand ils sont tous bourrés, d'un coup c'est toi qui as l'air le moins con quand même. Voilà, je m'y suis jamais mis, et puis au bout d'un moment tu te dis bon là je vais pas y aller maintenant. Et puis alors il y a aussi autre chose, parce que là ça fait un peu le mec genre je suis au-dessus de ça, je bois pas et tout, mais l'autre chose c'est un énorme manque de confiance en ma capacité à, mais comme pour les drogues par exemple, tu vois, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est la drogue moi, mais ça c'est parce que quand je me rends compte que je suis incapable de me retenir s'il y a des Kinder Bueno quelque part, dans quelle mesure j'aurais de la volonté pour me refuser ce genre de choses. Non, j'en sais rien. Puis, alors non, si on se dit les choses...
Non, parce que le gâteau, tu sais que... Qu'est-ce qui va te faire de mal? Il va éventuellement te...
Tu sais que je me pose beaucoup de questions sur ça maintenant, sur est-ce que le sucre n'est pas un très gros problème, je te jure.
Non, non. Pas si t'as une hygiène de vie à côté, notamment si t'es très très sportif... Le sucre, c'est un carburant, tu peux en consommer. Ouais. Le sucre, à mon avis, enfin, je suis pas médecin. Le sucre, c'est ton ennemi si t'es sédentaire, en fait.
Ouais, ouais. Écoute, la vérité, c'est que quand je me rends compte que j'ai si peu de volonté pour certaines addictions, j'ai fini par me dire, mec, n'y va pas sur ces choses-là. Et puis surtout, l'autre chose, hein, j'ai autour de moi des gens qui ont des problèmes d'addiction de drogue et d'alcool. Et tu sais que ce métier est fait aussi de gens que...
Sandrine, arrête.
Et je suis pas plus fort qu'eux, en fait. Voilà, je suis pas plus fort qu'eux. Il y a des gens très proches de moi que j'aime beaucoup qui ont des problèmes d'addiction et je me sens pas plus fort. Et la meilleure moyen... Et en fait, la vérité, c'est que quand tu n'as pas goûté, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je ne ressens aucun manque. Tu vois ? Je me dis pas, quand j'ai envie de boire un petit coup, je ne sais pas ce que c'est, je ne m'intéresse pas, je n'en ai pas envie, quoi. Tu vois ?
Moi, j'ai eu une philosophie inverse quand j'étais jeune. Bon, personne n'écoute là. Bougez-vous les oreilles. C'est qu'à un moment, j'ai décrété qu'il fallait tout essayer une fois pour savoir ce que c'était, mais une fois.
Ah oui ?
Une seule fois. Fin de l'histoire.
Waouh !
On en arrête là.
Mais c'est un sacré teaser quand même. On arrête là. Parce que ça ouvre beaucoup de possibilités de tout essayer.
On arrête là. Et maintenant, j'ai une super idée. Et si on regardait la bande-annonce de Medellin ? On l'a pas regardé.
Medellin, et il y a une surprise à un moment. Vous verrez.
Allez, je remonte un petit peu dans le chat. De mémoire, j'ai une question qui était sympa là. Ah, elle m'a échappé parce que j'ai dit tellement de bêtises. C'est pas grave, on remonte dans le chat. Oui, alors tu as annoncé les gens sur les gâteaux. Les gens, il y a eu deux questions qui sont venues dans le chat quand tu as parlé de gâteau, parce qu'il y a des gourmands. C'est un, ton gâteau préféré. Deux, éventuellement, ton ou tes pâtissiers préférés. Toi, tu as déjà commencé à en parler. Gâteau préféré.
Cédric Grolet, carrément, si vous...
Je ne connais pas.
Mais t'es sérieux, vraiment?
Non, moi, je connais les anciens, les Hermé, tout ça, mais... Cédric Grolet, tu dis comment
c'est... Tu sais que je connais personne qui ne connaît pas Cédric Grolet.
Ah, Grolet, je l'avais tout de suite en plus.
Cédric Grolet, si tu me vois avec lui, je bouffonne un peu parce que je suis fan. Donc ça se voit que je suis un peu pas dans mon état normal quand je le vois.
Ah oui, mais c'est un pâtissier star en fait, grand hôtel et tout. Il a été
pâtissier superstar, super talentueux. Et moi,
c'est parti, on va se régaler.
Moi, c'est un problème dans ma vie.
Ah oui,
alors,
c'est lui qui fait ça.
Alors ça, c'est la tarte aux fraises là. Là, tu vois cette tarte aux fraises. Alors je te raconte un truc. Ça c'est tarte aux framboises. Ouais, ça là, c'est la framboise. Non, tarte aux fraises des bois.
Les petites fraises là.
Alors ça c'est la tarte aux fraises des bois. J'appelle, je dis est-ce que vous pouvez me préparer une 8 personnes. Je te jure que c'est vrai.
Non.
La 8 personnes, non. Elle est pour Bibi.
Alors tu sais quoi,
je la tue et je me rends pas bien et après pendant tout le week-end je suis pas bien, j'ai l'impression d'être gros, je la tue.
Voilà. Bah tu sais quoi, ne commence pas la drogue, t'as raison en fait.
Mais oui, oui bien sûr.
La 8, c'est génial. Mais quand t'as commandé la 8, c'était pour 8, c'était pour 4 ou tu savais que ça allait être pour toi?
Non, il n'y a aucune discussion, je partage avec personne, je veux rien savoir.
J'adore.
Voilà, je veux la 8 personnes, voilà.
Bon, en même temps, si t'as...
Et puis je les aime bien, alors quand j'y vais, ils m'aiment bien, ils me rajoutent des trucs. C'est un cauchemar et en même temps, c'est un bonheur.
Ouais. Donc bah, écoute, moi je vais découvrir, dès que je reprends le sport, je vais découvrir l'univers de Cédric Grolet.
Ouais. Ah oui, je te recommande, oui.
Est-ce que Franck a une anecdote sur l'ours dans les Caïras? On remonte le temps. Alors moi, ça me donne l'occasion de vous montrer, parce que on a montré la bande-annonce du film Les Caïras, mais on n'a pas montré les plus jeunes. Vous avez halluciné. C'est pas trop vieux pour toi? C'est pas un fait.
Non.
Tu vois ce que je veux dire?
Alors, si tu mets Caïra Shopping, ours.
Ouais.
Je vais raconter comment on faisait ça.
Mais ça te gêne pas parce que parfois il y a des trucs, c'est des vieux trucs. Ah là, il me parle encore de ça.
Non, il y a rien qui me gêne.
Tu me dis hein.
En revanche,
tu veux on fait l'ours.
Ça, faisons l'ours.
Fais l'ours. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas Kaira Shopping. C'est ça n'a pas vie.
Et c'est sans intelligence artificielle. Ça, tout ça, est vrai. Ça... Il y a vraiment un Grizzly avec nous pour de vrai.
Bah, moi j'adore. Il y en a plein comme ça. Vous irez sur soi, vous allez voir sur internet pour vous endormir. Prêt ?
Ça a un peu plus de...
Ça n'a pas vieilli.
Bande de bâtards, bonjour, bienvenue sur Kaira Shopping. Vous connaissez le principe de l'émission ? Abdelkrim et Moustaine. Aujourd'hui, Moustaine qui nous ramène un produit venu tout droit de la nature. Là, parce que la force, elle est dans la nature, les potos. Mais croyez quoi ?
Moustaine, comment ça va, Pépère ou quoi ?
Tranquillement, bien.
Tranquille, Pépère.
Et toi, bien ?
Alors, vas-y. J'ai volé dans un zoo il y a 2 jours.
Il y a combien de temps ? 2 jours.
Deux jours.
Ça sert à quoi ?
Depuis 2 jours, il a déjà défoncé 4 mecs.
Qu'est-ce que tu fais avec un ours ?
Mais lui, il les a défoncés quand même. Parce que c'est moi, je lui ai dit de les défoncer.
Exactement, écoute bien.
Lui, on le vend. Pourquoi on le vend ? Parce qu'on n'a plus de place pour le garder.
Exactement.
En plus, ça peut très bien servir à des gars qui ont des embrouilles.
Voilà, trop d'embrouilles dans Paname. Trop d'embrouilles.
Embrouilles directement.
Exactement. Attends,
je l'emmène avec toi.
Attends, ferme ta gueule. Fermez vos gueules tous les deux. Écoute-moi bien. À Paname, à Marseille, partout, t'as des embrouilles. Que ce soit en ville, à la campagne, n'importe où. D'accord ? Lui, avec ça, personne ne t'aime ta meuf. Personne te parle mal. Personne te prête des embrouilles. Personne n'ose te regarder, d'accord ? C'est un prédateur, un vrai.
Prédateur de ouf.
Exactement, c'est pas
un ours de ouf.
Exactement, c'est un ours de ouf. Pour trouver toutes les caractéristiques de cette
sur le site, il y a les photos des gars qui l'ont
défoncé. Fermez vos gueules. Et avec, tu sais quoi ? Avec les photos des parents. Les photos des parents qui te prouvent que c'est bien un pur sang. Parce que nous, on rigole pas avec les croisements comme je sais pas quoi avec les liens, je vous ai F.
Ok ? Les parents, ils avaient déjà défoncé des gars.
Exactement, ils avaient déjà défoncé des gars. Exactement. Fermez vos gueules. À bientôt sur Kaira Shopping.
Sur le site, il envoie
le fond de cet ours que vous allez acheter sur Kaira Sans Frontières seront déversés. Ok, à bientôt, botte de bâtard.
Quel bonheur. Ça n'a pas vieilli. Enfin, pour moi, quoi. Fermez vos gueules.
Sur les ferme ta gueule, ce qui est drôle, c'est que quand on avait donné ça à Canal, je me rappelle que les gens chez Canal disaient, c'est très drôle, mais il faut pas que vous parliez les uns sur les autres parce qu'on vous entend, on comprend pas ce que vous dites. Et moi, je disais, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'écoute pas. C'est ça qui va être drôle, faites-moi confiance.
Ah ouais. C'est ça qui est bon.
Parce que t'imagines si on fait le même truc où on s'écoute comme dans un sketch. Blanc,
tu racontes tes trucs.
Et ce qui est drôle, c'est que la première fois qu'on a envoyé ça, mais tu sais, les gens pensaient que c'était vraiment vrai, que c'était vraiment des mecs qui vendaient un ours, quoi. Tu vois.
Et moi, je t'ai découvert comme ça, comme plein de gens, je pense. Et au début, je me suis posé cette question. Parce que c'est un vrai truc, c'est quel est là, tu vois.
Et pourtant, tu vois, JB, avec qui on. Qui faisait ça avec nous. La vérité, c'est que dans notre mise en scène, il servait aussi à ça, à se dire, vous voyez bien que c'est un sketch, vous voyez bien qu'il y a un nain Kaira avec nous, enfin, vous voyez bien que c'est pour de faux, tu vois. C'était des éléments un peu comédie. Mais non, les gens pensaient ça. En revanche, je peux vous raconter comment c'est fait et comment on fait avec un ours qui
parce
est un vrai
que,
ours.
Là, il faut que tu nous racontes quand même, parce que c'est un vrai grizzly, tu nous
oui,
as dit.
Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser en le revoyant.
Je crois.
Hein. Non. Et puis surtout, j'ai des croquettes dans la main que j'arrête pas de lui donner pendant la prise pour pas qu'il me saute dessus.
Oh,
putain. Eh oui, si on revoit ça. La vérité, c'est qu'en le revoyant, là, je me dis, tu vois, quand on se parle de l'humour, des gens d'un coup qui disent, ouais, c'est pas bien, et les clichés, et ceci et cela, où chacun pense ce qu'il veut, après tout, mais. Si on faisait ce sketch en ce moment, on aurait tout de suite un problème avec les associations d'animaux.
Ah, d'animaux, ouais.
Alors, il y a 15 ans, quand on fait ce sketch, on est dans une époque où il y a les animaux dans les cirques, il y a les... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, je vais chez un ami à moi qui est dresseur pour le cinéma et dont la spécialité, c'est les rapaces et les ours. Et il a un très grand terrain vers Aix-en-Provence et dans lequel il vit avec ses ours et c'est assez fabuleux parce que et il fait des câlins, enfin, tu vois, c'est des ours domestiqués, quoi. Donc, la vérité, c'est que si on le faisait maintenant, on ne pourrait pas le faire, celui-là, tu vois. On se mangerait des associations. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et après tout, c'est normal. Mais ça veut donc bien dire que parfois, on fait des choses sans se rendre compte que plus tard, ça nous paraîtra normal. Moi, par exemple, j'allais au cirque et j'étais fasciné par les numéros de tigres, tu vois. Et je te parle de... Ça fait pas bien longtemps, ça. Ça fait 4 ans, 5 ans que tu vas... le cirque Pinder, qui était très connu pour son numéro de cirque à Vincennes, là-bas.
Ouais.
Et on y allait tous. Les journalistes y allaient. Il y avait un parterre de stars qui venait à la première. Et on trouvait ça fou. Et puis, d'un coup, on se dit, mais enfin, leur vie à ces tigres, c'est camion, piste. Et puis, un jour, ils vont mourir. Et d'un coup, on se dit, tiens, c'est pas normal. Bien, mon ami dresseur d'ours, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui dresse des ours pour le cinéma. On trouve ça fou, on trouve ça beau. D'ailleurs, il les aime profondément et ses ours l'aiment aussi. Mais on ne pourrait plus faire ça, tu vois. Et donc, je pense que probablement, en ce moment même, on est encore en train de vivre des choses qui nous paraîtront fous dans 5 ans.
Ouais,
tu vois,
oui,
on se dira, mais c'est pas bien ce qu'on faisait là. Mmh. On acceptait ça à l'époque, maintenant, c'est plus possible. Tu vois, il y a une évolution des mentalités. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut qu'on soit...
Des prises de conscience.
Et qu'on soit un peu tolérant aussi de ça. Parce que ces gens, pour certains que je connais, qui dressent des animaux dans les cirques, bah c'est leur vie. Et ces animaux, c'est leur vie. Et ils les aimaient profondément. Et puis à un moment, on prend tous conscience qu'en fait, c'est pas bien pour les animaux et qu'il faut arrêter. Donc, en voyant ce sketch, moi, je sais que cet ours, bah, évidemment, il est pas maltraité parce que c'est pas le genre d'animal qui se laisse maltraiter. Mon ami dresseur d'ours... je pense qu'il est toujours vivant, cet ours d'ailleurs. Il vit en parc zoologique, il a un énorme parc, il fait de la reproduction, il est gentil, il s'aime. Mais oui, j'entends que, ouais, avec le recul, ben, il faudrait pas le faire. Tu vois ? Mais c'est quand même une bonne leçon de se dire, ben, au moment où on le faisait, dans l'époque dans laquelle on était, ça n'était pas mal. Et ça l'est devenu.
C'est notre discours sur l'humour tout à l'heure.
Ouais.
On ne peut pas juger une scène d'humour d'il y a 15 ans avec les valeurs d'aujourd'hui. Et tu viens de dire aussi un truc à l'instant hyper intéressant, c'est que on est en ce moment même, peut-être même dans ce stream, faire ou dire des trucs qui dans 15 ans
bien
seront
sûr
jugés choquants.
Complètement.
Et j'espère que dans 15 ans, on aura l'intelligence de dire ouais, bon, il y a 15 ans,
bien
on
sûr
était pas là.
Là, tu vois, je vois des gens parler aussi des tigres de Fort Boyard.
Ouais.
On a passé notre vie à regarder Fort Boyard
et
les tigres sans que ça nous étonne. Et puis d'un coup, on a une prise de conscience et on décide d'arrêter. Bah, c'est une évolution des mentalités et je me dis juste, ne soyons pas trop durs avec ce qu'on a été à une époque où on n'avait pas pris conscience que c'était mal, quoi.
C'est comme, tu vois, c'est comme sur l'éducation, par exemple, tu vois, bah, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, la façon dont ont été élevés et éduqués les enfants, parfois avec des châtiments corporels, les fessées,
ouais,
claques et autres.
C'est un bon exemple.
Bon, bah, à l'époque, c'était la norme.
Ouais.
C'était la norme. Aujourd'hui, ça n'est plus la norme, c'est même interdit. Tu n'as pas le droit, au regard de la loi en France, tu n'as pas le droit de gifler ou de fesser un enfant.
Hein. Ah ouais.
C'est châtiment corporel, c'est illégal. Les mentalités ont évolué en fait. Mais juger les parents, juger aujourd'hui ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, au nom d'éducation un peu sévère et parfois violente physiquement, qui a pu avoir, avec les valeurs et les normes d'aujourd'hui, c'est complètement con.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette prise de conscience.
Complètement.
Et personne ne disait ça. C'est la même chose. C'est la même chose.
Complètement.
On a lancé des débats. Tiens, là, oui, la télé d'avant, le Colaro Show, oui, c'est pareil. T'es trop jeune.
La Plémette.
La Plémette.
Bah, non, c'est
la Plémette, le dimanche soir.
Bah oui.
Avant le 20h. Enfin, toute la famille, les enfants devant la télévision, quoi.
Ouais, ouais. Et avec un moment un peu gênant, quand même. Enfin, c'était un moment.
Toi aussi, t'es gêné.
Bah oui.
T'étais avec papa,
parce que
maman.
Tu sais pas si c'est mal ou bien.
Oui.
C'était un peu bizarre. C'est et en même temps, c'est cool à regarder pour le garçon, mais.
Et en plus, c'est juste avant un programme, genre 10 minutes avant, il y avait un dessin animé, un truc comme ça. Juste après, c'est un programme sérieux. Et à un moment, dans ta télé, en famille, il y a une jeune femme qui se dénude, quoi.
Ça nous paraît fou maintenant.
Ouais.
Ça ne pourrait pas arriver.
Ça ne pourrait plus arriver.
Et c'était notre quotidien.
Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments de. Moi, je me rappelle, j'étais gêné en tant que, que jeune garçon. Personne ne disait rien, tu sais. Mais tout le monde regardait.
Ouais.
Trop bizarre.
Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais
trop bizarre.
On est quand même en train d'assister à ça.
Ouais.
Et tu vois, bah, paradoxe, ce qui nous fait parler de ça, c'est mon sketch de Carrière Shopping avec un ours. Où, à cette époque-là, il n'y a pas un seul moment où on est en train de se dire qu'on fait quelque chose qui pourrait paraître pour quelque chose de mal plus tard. Il n'y a pas plus tard que sur la promo de Pattaya, je me rappelle qu'on fait un prime avec Hanouna. Où Cyril nous fait une émission spéciale Pattaya, où il y a Gad qui vient, on est avec Malik, Sabrina,
Anouar.
Et chacun vient avec ses compétences. Et moi, du coup, je viens avec des chiens dressés, etc. Et je fais venir mon pote dresseur d'ours avec cet ours-là. Pattaya, c'est il y a 6 ans. Hein.
Ouais.
C'est impossible. Là. Tu fais pas venir un ours sur un plateau télé, t'as toutes les associations le lendemain. Et je suis pas du tout en train de te dire que c'est mal, je suis en train de te dire que les mentalités évoluent, quoi.
Tout à l'heure, il y a une question que je l'ai voulu geler, et puis hop, le chat est passé par-dessus, sur les conditions de tournage en Colombie, et si le contexte, notamment sécuritaire, avait posé problème ou pas, et je sais qu'elle t'avait intéressé cette question.
Oui, et puis c'est surtout le lien à Escobar, parce que donc on a tourné à Medellín, qui est tristement célèbre, alors que c'est une ville incroyable, pour Escobar, c'était la ville d'Escobar, Il en avait acheté l'équipe de foot. Il a même fait construire un barrio dans lequel on a construit, qui s'appelle encore le barrio dans lequel on a tourné, qui s'appelle le Barrio Escobar, dans lequel personne n'avait tourné de film. Donc les gens découvriront dans ce film, oui. Et alors c'était un peu particulier parce que quand on... Là, je te raconte des trucs que je ne raconterai pas en promo parce que ça peut générer des discussions que je n'ai pas envie d'avoir, mais ici, on se dit tout. Quand on est arrivé à Medellín, on a fait la couve du journal local, du Parisien local. Mm-hmm. Avec des photos paparazzi de moi et de Brahim qui joue un fan de Pablo Escobar, enfin un mec qui se déguise en Escobar. Et on a fait la couve. Et on se réveille un matin, il y a la couve de ce journal local avec écrit en espagnol « Messieurs les Français, Medellín, ce n'est pas que Pablo Escobar ». Bon, il s'avère que c'était un titre un peu accrocheur, mais à l'intérieur, l'article était très positif. Mais ça nous a rappelé que le traumatisme Pablo Escobar est toujours très très présent dans cette ville à Medellín. Et dans la Colombie en général.
Pourtant, c'était il y a longtemps.
Et alors, il faut savoir que 98% de ce pays déteste Escobar, à juste titre, et le déteste pour l'image qu'il a laissée. Mais il continue à fasciner. Et il nous fascine d'ailleurs tous. Il n'y a aucune admiration là-dedans. Hein. La fascination est un sentiment très différent. Mais à un moment, ce mec qui est un fermier de Medellín, qui devient le baron mondial de la drogue à fournir tous les États-Unis, etc., c'est quand même assez fou le parcours de ce mec. Et puis tout ce qu'on a vu dans les films, dans la série Narcos, ce mec qui accepte de se faire enfermer en prison, mais il fait construire lui-même la prison et qui décide des lois. Enfin, c'est fou. L'histoire de ce mec est fou, est folle. Et on s'est rendu compte, arrivé là-bas, que ce pays déteste Escobar, que mon film n'est pas du tout à la gloire de Pablo Escobar, uh-huh. Pas du tout, même l'inverse en fait. Et les gens découvriront la morale. Moi, je voulais traiter de la fascination que certains ont pour les mauvais garçons. Pourquoi certains sont fascinés par Tony Montana, qui est un mec qui finit troué de balles en vendant de la drogue. Moi, je suis fan de Rocky. J'ai aimé Scarface, mais j'étais étonné qu'on s'identifie à ce parcours-là. Comme je suis étonné qu'on aime Pablo Escobar, quoi. Tu vois, c'est quand même un horrible monsieur qui est un terroriste, quoi. Tu vois. Et il y a eu un moment particulier parce que les autorités colombiennes ont donc dû lire le scénario,
ouais.
Accepter le tournage quand ils ont compris que c'était pas du tout à la gloire d'Escobar. Et là où je me suis senti gêné, c'est qu'on a tourné dans le barrio Pablo Escobar à Medellín, qui est un quartier qui était une ancienne déchetterie, et Escobar a construit sur ces lieux des habitations.
Ah oui, je me souviens de ça.
Probablement pour de mauvaises raisons.
Ouais, c'était une façon d'acheter le silence de la population, je crois, dans mon souvenir. Hein.
Et puis de collaborer avec cette population, ouais. Mais oui, c'était ça. Sauf que dans ce quartier, il reste une population qui continue à avoir un rapport un peu particulier avec lui parce que c'est des gens qui n'ont rien. C'est pas un pays, malgré tout ce qu'on peut en dire, la France est un pays qui a beaucoup d'aide sociale, etc. La Colombie, pas du tout. Tu n'as rien, tu meurs de faim. Et donc, ces gens sont des laissés pour compte. À qui on disait « il faut croire en la justice de votre pays » et à qui on donnait rien. Et puis Escobar a dit « croyez en moi, moi je vais vous construire des logements ».
Je crois qu'il faisait des distributions de nourriture aussi, je crois.
D'argent, il passait en avion, il jetait de l'argent. Non mais c'est fou. Et les gens m'ont raconté ça là-bas. Tout ce que tu as entendu est vrai sur le mythe d'Escobar. Et qui a continué ensuite, moi je suis très proche encore de gens de ce quartier, qui m'ont raconté qu'après sa mort, sa mère est venue à construire l'église du quartier, continuer à donner des jouets aux enfants, etc. Donc, l'empreinte d'Escobar est encore très présente dans ce quartier. Et moi, je me suis beaucoup attaché à ces gens, que j'ai vraiment beaucoup aimés. Après le tournage, tous les soirs, on restait avec eux. Ils nous invitaient à manger. On a passé un mois dans ce quartier Escobar à être très proche des gens. Ils étaient très, très reconnaissants qu'on vienne tourner dans ce quartier dans lequel personne ne va. Ils étaient très reconnaissants qu'on fasse travailler la population locale, parce qu'évidemment, on fait travailler tout le monde, tu vois. Et puis l'école s'arrêtait pour venir assister au tournage. Enfin, tu vois, ça éveillait aussi les gamins sur ce qu'était le cinéma. Enfin, c'était une très belle aventure. Et il y a des moments gênants où certains membres de la population me disaient « Mais Franck, toi, tu aimes Pablo. Rassure-nous, tu aimes Pablo. » Et je devais un peu mentir. Je devais dire « Oui, oui, je, bien sûr. » Alors qu'évidemment que non. Mais je suis parti de ce quartier où les gens nous ont accueillis et nous ont aimés. Et où parfois, tu sais, tu tournes dans des villes ou des quartiers en France où t'es pas bien accueilli parce que ça les fait chier les tournages, etc. Là, au contraire, c'était une fête chaque jour où les gens voulaient pas qu'on parte et ils nous invitaient à manger. Et je suis parti avec ce petit truc dans le ventre de putain, j'ai l'impression de les avoir un peu trahis. Et en même temps, On ne peut pas être en accord avec Escobar.
Puis le contexte n'est pas le même. Enfin, tu serais habitant de ce quartier, tes sentiments seraient différents.
Alors, j'ai rencontré une jeune fille qui vient du quartier Pablo Escobar et qui fait ses études en France.
Oui.
Et son parcours m'a fasciné parce que je me suis dit, mais comment on se retrouve dans des pires ghettos de Medellín à vivre dans des habitations qui sont... c'est des lits de camp, enfin c'est pas des vraies maisons, hein, tu vois, on a vraiment tourné dans des endroits où la pauvreté saute aux yeux. Et je suis toujours en contact avec cette jeune fille que j'adore et qui fait ses études en France avec beaucoup de courage et qui aide sa famille. Et je lui dis, j'ai besoin que tu je suis gêné pour ça, j'ai besoin que tu m'en parles. Et elle m'a dit, tu sais, pour nous c'est un peu un tonton, parce que moi j'ai grandi dans une maison qu'il a offert à ma grand-mère. Donc il nous a tous donné des maisons. Donc c'est un peu un tonton, mais on sait très bien ce qu'il a fait de mal. Donc personne ne t'en voudra de ne pas être en accord avec lui. Et t'inquiète pas, quand le film sortira, ces gens ne t'en voudront pas. Mais je suis parti de la Colombie avec ce poids un peu de me dire ils nous ont accueillis comme des membres de leur famille. Et je leur ai menti sur le fait que Escobar, non, on ne peut pas être en accord avec Escobar. Tu vois.
Après, ils vont voir ton film.
Ouais.
Et ils vont voir que c'est une comédie aussi.
Oui.
Et donc, je pense pas que ça va...
Non, mais pour te dire que... Ça m'a un peu touché. Y a les gens qui écoutent et qui verront le film verront ce moment où ça peut les gêner. Il y a une phrase de Ramzy qui dit à un personnage « Va brûler en enfer comme Escobar » et il se passe un truc terrible derrière. Et en même temps, on ne peut pas. Tu vois, mais on a tourné dans des maisons dans le quartier à Medellín où il y avait, chez l'habitant, une photo du Christ et une photo d'Escobar à côté. Tu vois. Et c'est une grande leçon sur la manière dont on peut manipuler le peuple quand il a faim, tu vois. Et alors dans ce quartier qui était fou, c'est que donc il y a, et vous le verrez dans le film, il y a des fresques à son effigie qui sont absolument intactes, hein, tu vois. Les touristes viennent pas trop dans ce quartier parce qu'il fait peur, mais et puis alors le plus fou, c'est qu'il y a une piste d'hélicoptère en haut du quartier qui ne sert plus mais qu'il avait fait construire, et des tunnels que j'ai été voir qui sont des tunnels qui arrivent dans différentes maisons du barrio. Et qui étaient évidemment des endroits pour se cacher. C'est assez fou, quoi. Là, on était dans la série Narcos quand on tournait là-bas.
Je souris depuis tout à l'heure parce que je pense à cette formidable plateforme qui est Twitch et à Twitter qui est parfois compliqué. Et tout à l'heure, tu as expliqué ton échange avec les populations sur Escobar. Et tu as dit, quand à la question est-ce que j'aime Escobar, est-ce que tu aimes Escobar, tu devais répondre parfois oui. Et là, j'imagine quelqu'un qui est en train de couper la vidéo et la mettre sur Twitter en disant Franck Gastambide aime Escobar. Ouais. Ça, c'est Twitter. Et la vraie histoire racontée, c'est sur Twitch. Et ça me ramène à un très joli message de Dr. Tiny Bloom qui a été posté il y a longtemps, mais que j'ai trouvé trop mignon au début de cette histoire. Non, c'est Torco juste en dessous, pardon, Tiny Bloom. Bonsoir, d'habitude je n'envoie aucun message parce qu'il y a des gens qui regardent et qui parfois ne participent pas au chat, hein.
Ouais.
Très nombreux d'ailleurs, mais là je vais en mettre un simplement pour dire, tu sais, c'était notre échange tout à l'heure,
oui, sur l'éducation,
ouais, ouais, qu'il ne fallait pas juger non plus l'humour ou l'éducation ou les comportements d'il y a 30 ans avec les valeurs d'aujourd'hui, simplement pour dire que j'adhère et j'adore l'analyse et l'interprétation de la société, de la nuance. Merci pour toi, bonne soirée. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que notre époque, notamment sur Twitter, manque singulièrement de nuances.
Ouais, on idolâtre ou on déteste maintenant.
Ouais.
Ouais.
Et il y a du coup ça provoque de la colère et de la haine et une insuffisance d'écoute. On sent qu'il y a des gens et parfois des groupes et des communautés qui ne sont plus capables d'entendre,
complètement,
d'écouter une différence, une altérité. Tu vois.
Moi, je suis un peu effrayé par ça, et je suis un peu effrayé aussi par la manière dont on va détester très vite des gens qu'on a aimés.
Ah ouais?
Ouais. J'ai 40 exemples, mais je sais pas si on pense à... Bah, tout à l'heure, il y avait Cyril Gane, c'était un très bon exemple.
Ouais.
Mais par exemple...
Tu veux dire après sa défaite?
Ouais.
C'est ça que tu veux
ouais,
dire?
Ouais, ouais. Mais c'est le syndrome Mbappé, c'est-à-dire qu'Mbappé va mettre un triplé et c'est la, c'est le génie et c'est l'enfant du pays. Et on l'aime tous, et puis il va louper un pénalty, et puis d'un coup, on lui demande la déchéance de nationalité. C'est complètement fou, en fait, la manière dont... Sur Cyril Gane, c'est mon ami proche, j'ai été un peu touché par ça. Cyril, il fait une carrière que personne n'a fait à l'UFC.
C'est la culture de l'instant, dont
ouais.
Backdraft, c'est vrai, c'est ça.
Et puis, il perd un combat, il le perd mal, c'est
ouais,
vrai.
Ouais.
Et d'un coup, ce mec se prend des rafales de haine.
Il en a souffert.
Inutile, injustifié. Cyril, il a un truc de recul assez fort avec tout ça. Je sais qu'il a été surpris, en tout cas, parce que c'était extrêmement violent et surtout extrêmement changeant. C'est-à-dire que quelques mois avant, c'était l'UFC Paris à Bercy où c'était le maire de la France, c'était incroyable.
Et même la veille du combat, c'est un dieu vivant, quoi.
Exactement. Hein? Et puis tu perds ton combat, tu le perds mal, peut-être que tu ne t'es pas assez préparé, peut-être ce que tu veux, mais il y a un moment. Pourquoi d'un coup tu détestes ce mec que tu as tant aimé quelques mois après ?
Après, il y a un commentaire de Shadi. 35-200, ça c'est Evidence, c'est Bretagne, c'est pour ça que c'est bien. Faut pas trop se matrixer par rapport au réseau, c'est pas la vraie vie. Peut-être bien aussi sûr. Que tout ce qu'on évoque, c'est aussi le fait des réseaux sociaux, notamment de Twitter, où là il y a des prises de position qui sont très violentes, des changements. Et que c'est peut-être pas le reflet de l'opinion générale et profonde d'un pays.
Tu le sais aussi, toi, avec ta notoriété, c'est en tout cas pas le reflet de ce qu'on vit dans la vraie vie.
C'est clair.
Ça fait 10 ans un peu plus que je fais ce métier, ça fait quelques années que je commence à être connu. Jamais une seule fois dans la vie j'ai eu une mauvaise expérience et je me balade sans garde du corps.
Tu veux dire
sécurité.
Quelqu'un qui traverse la rue pour ou t'insulter ou t'agresser, quoi.
Bah, même pour être désagréable, au-delà de l'insulte ou de l'agression, non, tout ça, ça n'existe pas dans le vrai monde. Et puis parfois tu te rends compte aussi sur Twitter que tu vas répondre à quelqu'un qui va dire: ah, je pensais pas que tu m'as répondu, vas-y, désolé, c'est Twitter, tu connais.
Mais ça, ça dérange pas si j'en parle, parce que tu m'as raconté ça juste avant le stream et je trouve ça formidable. Franck me racontait juste avant qu'on lance le stream que lui, il aimait bien échanger avec ceux qui, sur les réseaux sociaux, venaient l'attraper par le col.
Alors faut pas trop le dire, parce que du coup, pour avoir une interaction avec moi, ils vont être désagréables, tu vois. Non, la vérité, c'est que, tu sais. Bon, d'abord, si j'étais quelqu'un d'ultra susceptible, j'irais pas sur Twitter, puisque je sais trop de quoi c'est fait. Après, il y a un truc qui est formidable sur le téléphone, c'est que on peut ne pas appuyer sur ce petit icône bleu de Twitter ou le rouge de Instagram. Donc, si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, et tu te rends compte que si t'y vas pas, ça n'existe plus. Donc ça, c'est quand même un truc très pratique. Donc si tu y vas, tu sais que tu vas te prendre de l'amour, et d'une manière très générale, moi, c'est ce que je reçois. Et puis, tu vas peut-être aussi, à un moment, tomber sur des gens jaloux, frustrés, mal intentionnés, qui ont décidé de ne pas t'aimer pour des raisons qui leur sont propres. Mais puisque je sais que je suis un garçon gentil et que j'ai rien fait de mal, je suis toujours. Ça m'intéresse de parler, tu vois, et te dire, mais alors vas-y, explique-moi. Mais je suis tombé sur des gens qui étaient ultra désagréables sur les réseaux. Et puis quand, au détour je m'ennuie, ou je suis dans le train, ou je dis, tiens, je vais lui répondre à lui. Bon, s'il est ultra désagréable de manière excessive, je le bloque et je m'embête pas avec lui. Mais je vais répondre. J'en ai un une fois qui était ultra méchant. Et je lui ai répondu. Je lui ai dit, putain, mais
qu'est-ce que je t'ai fait, quoi ?
Je connais ta copine ou quoi ? Pourquoi t'es si méchant que ça ? Et lui, il m'a dit, ah, tu m'as un frérot, merci de me répondre. Hey, t'es un bon, je te jure, t'es un bon. Mais t'as vu la saison 2 de Validé, j'ai moins aimé que la 1. Et donc, c'est pour ça ? C'est parce que t'as moins aimé la 2 que la 1 ? D'accord. Ok, donc ça marche comme ça. Donc.
C'est hyper rassurant ce que tu dis.
Non, mais ça, c'est 99%
c'est
des cas.
C'est hyper rassurant.
Tu vois, c'est... Enfin, sauf si t'es vraiment un mec qui a fait des trucs pas bien. Moi, j'ai pas fait des trucs pas bien. Donc, il y a aucune raison que je sois confronté à une réalité où je me dis, ah merde, il va me parler d'un truc. Non. C'est... Tu sais, à chaque fois que je me rappelle, par exemple, je me rends compte que c'est assez fou parce qu'on parle autant qu'on veut. Je prends conscience du truc là.
C'est magique.
Ouais, c'est magique.
C'est magique.
Et du coup, on peut dire tout, c'est génial. Je comprends le kiff de Twitch là, ça y est.
Et avec une vraie empathie, curiosité de l'autre côté, quoi.
C'est, ouais, c'est, et avec aucun problème pour parler aussi de choses plus désagréables, enfin, oui, qui pourraient être désagréables. En fait, je me rends compte que, tu vois, il y a un journal qui s'appelle Le Bondi Blog.
Oui,
qui m'avait fait une super critique pour les Kaira il y a 10 ans, tu vois, quand on se parle de l'évolution de l'époque. C'était un des premiers médias à parler de moi, l'humour banlieue, etc. C'est super, etc. 10 ans après, je sors la saison 2 de Validé et ils sortent un article à charge sur moi. Avec cette espèce de mode là de dire
la présentation des banlieues,
l'humour cliché, c'est pas bien, il faut faire que des rôles où les mecs de banlieue c'est des astronautes ou des mathématiciens. Moi, j'ai toujours revendiqué qu'il fallait qu'on rie de nous, et d'ailleurs je ris moi-même de moi puisque je joue moi-même le rôle, donc c'est même pas comme si je mettais en scène les autres et puis moi je me donne le rôle du mec intelligent, tu vois. Donc, et puis l'article est tellement pas cool je sens ça tellement injuste que j'envoie un message pour dire je veux répondre moi à ça. Tu vois, si je me sentais ultra coupable, je me mets dans mon coin, je fais comme si j'avais pas vu l'article, et puis on n'en parle plus, puis demain ça ira mieux. Et puis je pourrais aussi me dire, c'est un tout petit média en fait, le Bondi Blog. Mmh. Et là, je dis non, je veux venir parler.
Ah, c'est
et,
top.
Et on me dit, ok, mais alors on filme tout. Mais encore mieux. Et Anouar, qui était révolté par l'article, me dit aussi, je veux venir. Et Anouar et moi, sur le scooter, on fonce à Bondi, et on arrive, ils sont 40. Avec des calepins, plein de caméras, et je me dis waouh putain, j'ai l'impression il faut que je sois chaud là, parce que et en fait on a une discussion super constructive, ce qui veut pas dire qu'on finit par être tous d'accord, oui, hein, oui. Tu vois, chacun a le droit de rester sur son opinion, n'empêche que je viens et je veux qu'on en parle.
Vous avez
et je ne suis pas d'accord, vous vous trompez sur mes intentions. C'est un peu facile d'aller chercher un film d'il y a 10 ans pour dire cette vanne et cette vanne, ok, ben parlons-en, et puisque vous considérez que c'est mal, il va falloir m'expliquer pourquoi. Et surtout, puisque c'est un film qui a 10 ans, on va pouvoir m'en expliquer les conséquences. Parce que si c'est mal, il y a des conséquences à ce truc mal.
Bien sûr.
Allons-y, ça, il y a 10, on va pouvoir s'en parler. Et j'ai adoré ce moment qui a duré 2 heures où on a échangé. Évidemment que quand on a décidé d'être ferme sur ses positions de l'autre côté et que c'est filmé par plein de caméras, bah on reste fort dans ses arguments. Mais Anouar et moi étions aussi très forts dans nos arguments. Et on est parti, on a fait des photos avec la moitié du Bondi Blog. Et tout le monde est bons amis et on a le droit de ne pas être d'accord. En revanche, je n'accepte pas de passer pour quelqu'un qui fait des choses mal pour la communauté d'où je viens, qui est la communauté de banlieue. Ça, non. Ça, me dire que ce que je fais est mal, alors parlons-en et tu vas m'expliquer pourquoi c'est mal. Alors ça, vraiment, je suis très heureux de pouvoir en parler. Et pour te dire, le Bondi Blog, encore une fois, c'est un petit média, j'aurais pu faire comme si je voyais pas.
Bien sûr.
Et quand je sais que quand je vais faire Quotidien ou des médias comme ça, on me parlera pas de ça, et je vais arriver avec ma belle chemise et je vais pas me la froisser. Non, je viens à Bondi, on prend le scooter, parlons-en. Oui, oui, filmez tout ce que vous voulez, j'ai rien fait de mal, je vais être très à l'aise pour qu'on en parle.
C'est tout à ton honneur. J'ai une question, en t'écoutant notamment parler de Bondi et puis de la banlieue et d'où tu venais, j'ai une envie de question, mais elle est très indiscrète, donc tu peux la refuser, bien sûr, je ne m'en offusquerai pas, parce qu'elle est très personnelle. Je ne sais pas si tu as encore ta famille, si tu as encore tes parents, mais qu'est-ce qu'ils pensent de ton parcours?
Écoute,
pas de répondre,
non, j'ai aucun problème avec rien, mais... Écoute, moi, je sais pas où est mon père, je l'ai pas vu depuis 25 ans, mon père.
Excuse-moi, je savais pas.
Aucun problème, non, j'ai déjà parlé de ça.
Sans savoir, pardon.
Non. En revanche, ma mère vit toujours à Melun, donc je vais toujours à Melun la voir. Et pour être très honnête, le rapport est un peu particulier avec un fils, et je ne l'accable de rien et je ne lui en veux de rien. Mais il y a des conséquences au fait d'avoir eu un gamin en qui t'as jamais cru. Et je ne lui en veux pas, puisque moi non plus, je ne croyais pas en moi. Mais quand toute ta vie, ta mère t'a dit, et tu l'entendais dire à tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? C'est vraiment, si j'écris un livre un jour, il s'apparaît, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? C'est la phrase que j'ai entendue le plus. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Le gamin dernier de la classe qui te fait honte, où tu ne peux pas aller aux réunions parents-prof parce que t'es la mère du dernier, tu vois ? Et t'es en 4e techno, en 3e techno. T'es avec des gens, parfois, qui ne parlent pas bien français, qui ont plus de difficultés que toi. Bah, t'es quand même dernier, tu vois ? Pour une mère, c'est difficile. Et elle s'est fait du souci pour moi. Elle s'est demandé vraiment, sincèrement, ce qu'on allait faire de moi. Et quand tu deviens ce que je suis là,
ouais.
C'est-à-dire on n'a pas de tabou, je fais des films qui marchent, je suis millionnaire, j'ai du succès.
Tu mets du plaisir dans la tête des gens, des sourires.
Oui, voilà. Mais pour ta maman, elle se dit qu'elle a loupé un truc là. Qu'elle n'a pas vu que ce petit gamin, en fait...
Tu veux dire qu'elle n'a pas switché tout à fait, c'est ça ? Elle a pas...
Bah, encore une fois, je ne lui en veux pas puisque je ne l'ai pas vu non plus. C'est important, je me répète sur ça, mais c'est important parce que l'accabler n'a aucun sens. Elle avait des vraies raisons de s'inquiéter. Elle avait des vraies raisons de dire qu'est-ce qu'on va faire de lui. Mmh. Moi aussi, je me suis demandé ce qu'on allait faire de moi. Sauf que quand, quelques années après, tu remplis des salles de cinéma... tu lui achètes une maison, tu gagnes beaucoup d'argent, et eh bien elle se dit en fait je suis passé à côté de mon fils, j'avais pas vu qu'il avait du potentiel, j'avais pas vu qu'il...
Tu veux dire qu'elles se sont coupables,
bien sûr,
c'est ça,
terriblement, terriblement. Donc oui, ça crée un espèce de fossé. Ah, et puis je me rappellerai toute ma vie. Tout à l'heure, on en parlait de ce film qui s'appelle La Surface de Réparation, qui est un film d'auteur. La vérité, c'est que ma mère, quand je lui montrais Carrera Shopping, elle ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle. Quand elle voit les Carrera, elle me dit « Mais tu penses que ça va faire rire les gens ?» Elle passait à côté du truc.
C'est normal, c'est générationnel.
Oui, oui, complètement. Et puis tu sais, c'est comme quand je dressais des chiens pour la défense, les chiens des vigiles, etc. Elle me disait « Mais quand même, ça serait beaucoup plus beau de dresser des chiens pour la survie en avalanche, ce genre de truc, tu vois ?» Et je lui disais « Maman, pardon, mais il y a beaucoup moins d'avalanches en Seine-et-Marne. Donc, ben, je vais faire ça. Ben là, je pense qu'elle aurait préféré avoir un fils qui faisait des films d'auteur qu'un fils qui fait des trucs avec des nains qui se font faire caca dessus. Tu vois. Et puis, est arrivé ce jour-là où il y a l'avant-première de La Surface de Réparation. Je me rappelle, c'est à Bercy. Belle salle de 600 places avec 600 personnes qui viennent voir son fils dans un film d'auteur où il n'y a que moi sur l'affiche. Et le film se termine et je vois bien qu'elle a pris un petit choc, tu vois. C'est-à-dire, en fait, son fils est acteur, donc, c'est ça. Il y a tous ces gens qui sont venus le voir, qui l'ont applaudi longuement à la fin. Et puis, il m'a transmis des émotions. Bon, ok. Canal Plus m'avait consacré un documentaire et dans lequel ils ont réussi à choper deux phrases de ma mère à la fin d'une avant-première et où elle dit en fait, le garçon que je vois là, devant la salle, j'ai pas l'impression que c'est le même garçon qui vient chez moi le dimanche. Et je pense qu'il y a toujours ça. Voilà, il y a toujours ce moment de... Donc quand je vais à Melun la voir, ok, donc c'est Franck, qu'est-ce qu'on va faire de lui, même si j'ai l'impression que ça y est, il a trouvé. Et puis dehors, c'est un autre garçon que les gens applaudissent. Tu vois, depuis que je suis connu, je crois que je suis jamais sorti dans la rue avec ma mère. Je pense que ça lui ferait très bizarre de voir les gens qui viennent me demander des photos et me dire qu'ils me trouvent super, puisqu'elle ne m'a jamais trouvé super, tu vois. Voilà, c'est un peu... J'ai pas été avec une maman ou une famille qui me poussait, qui me disait « crois en toi », qui disait aux autres « mon fils, c'est le meilleur ». Je voyais ça chez mes petits copains, tu vois. Chez mes petits copains, je voyais leurs parents qui étaient fans de leurs enfants. Moi, j'ai pas eu une maman qui était fan de moi. J'ai eu une maman qui était très inquiète pour moi et j'ai probablement eu une maman que j'ai déçue beaucoup.
Mais t'en as souffert.
Forcément, beaucoup, oui. Mmh. Ouais, forcément. Mais il y a un moment où il faut aussi te détacher de ça, accepter que tu as... Ouais, que t'as rendu de triste ta mère. Qu'est-ce que je te dis, c'est... Mais tout ce que je dis là, c'est parce que ça peut paraître très chiant ce qu'on raconte.
Bah non, c'est essentiel. On est sur l'essentiel, là.
Oui. Enfin, tu vois. En tout cas, il n'y a pas de misérabilisme dans ce que je raconte, hein. Parce que je suis très heureux maintenant. Et je suis très heureux je me rappellerai toute ma vie les premières fois où j'ai gagné un peu d'argent.
Je sais pas si tu vois tous les petits cœurs qu'on envoie là.
Ouais. Mais vraiment, c'est pas du tout pour faire le mec.
C'est sincère aussi.
C'est la vérité de tout ça.
Tu vois, Azazu, ça me parle pour l'avoir vécu par exemple.
Ah oui.
Tu te rends pas compte, mais peut-être que ça fait aussi écho.
Alors si ça sert à ça, c'est merveilleux.
Parce que les histoires de famille, parfois elles sont belles, puis parfois elles sont un peu plus compliquées. Parfois. Ouais. Toutes les histoires familiales d'ailleurs sont compliquées et là ça n'est pas que personnel en fait, sans te rendre compte, je pense que tu partages des choses là avec des gens qui ont vécu des choses.
Très content de ça, mais tu vois, c'est un côté où tu...
Ça aussi c'est très beau, la phrase de Bialaoff, accepter que ses parents en fait ne sont pas des surhommes et ont leur propre faiblesse aussi.
Ouais, mais ce moment où tu en prends conscience, il est difficile, hein. Il arrive en général à l'adolescence où tu te rends compte que tes parents, c'est très dur, hein, cette phrase, mais tes parents ne sont pas des êtres exceptionnels.
Ben non, ils sont pas parfaits.
Ouais.
Ils sont même parfois pas exceptionnels. Ouais.
Moi, j'ai mon père qui est parti très tôt, donc j'ai vite compris qu'il n'était pas exceptionnel. Et après, une mère qui faisait ce qu'elle pouvait, mais bon, voilà. Je n'ai pas moi connu la maman qui me pousse, qui m'encourage. Tu vois cette phrase de mon fils c'est le meilleur. Ça, je sais pas ce que c'est. Moi, on m'a jamais dit ça. On m'a toujours dit qu'est-ce qu'on va faire de lui.
Peut-être qu'elle le pense aujourd'hui. Et qu'elle l'exprime peut-être.
Ouais, écoute, peut-être. En tout cas. Il faut aussi accepter quelque chose qui est difficile, c'est que c'est trop tard. Tu vois ? Et c'est pas grave. C'est pas grave, je suis là pour elle, je l'aide, elle manque de rien. Mais
tu crois pas qu'au fond d'elle, elle se le dit quand même ça ? Et que c'est juste que...
Je pense qu'elle est surprise, qu'elle est étonnée, qu'elle est... oui, et, mais malgré tout, cette gêne de se dire « je l'ai pas vu arriver en fait le succès de ce gamin.
Elle s'en veut.
Oui, ça c'est sûr. C'est ça, en fait. Ça c'est sûr. Et du coup, ça provoque un rapport qui n'est plus un rapport normal. Mmh. Voilà. Voilà, il faut accepter ça. Hein.
Et puis toi aussi, si un jour t'es père,
Ouais.
Tu l'es pas encore, je crois.
Non.
Si un jour t'es père, tu verras, tu feras de ton mieux, et puis tu te diras aussi, ah oui, mais là, je sais pas été
auteur. Bien sûr, bien sûr. Ah. Non, mais c'est pour ça que, voilà, tout ça est un peu douloureux, mais quelqu'un qui me dit, est-ce que t'en as parlé avec elle ? Ben oui, parce qu'évidemment, c'est ça la question qui se pose, mais non, là, il faut que j'arrête d'en parler.
Mais juste réponds à cette question de TTL BZH, qui est un habitué, je trouve que c'est une très bonne question.
Qui est ?
C'est ça, est-ce que tu en as parlé avec elle ? La réponse est-on a priori plutôt non ?
Non, en revanche...
C'est très difficile de se dire les choses de parents à enfants.
Ouais.
Enfin, je sais pas si vous y arrivez, mais il y a très peu de gens qui le font. Hein. Parce qu'il y a plein de... Chacun est dans son rôle, en fait, dans son... C'est très compliqué, même.
Ouais, la seule fois, mais ça s'est fait avec un mail, pour te dire le niveau de problème de communication. J'ai fait, peut-être les gens l'ont vu, 7 à 8, le portrait, et j'en parle dedans. Et je parle du fait que... Je dis cette phrase de « elle n'a pas cru en moi, mais je ne lui en veux pas parce que moi non plus, je ne croyais pas en moi. » Et elle a forcément vu cette émission. Je ne lui ai pas dit « maman, tiens, je te fais un message vers cette émission.
Oui, » oui.
Elle l'a vu, puis j'imagine qu'à chaque fois, les gens lui en parlent. Et j'ai reçu un mail 2 jours après où elle m'a dit « je veux juste te dire qu'à cette époque, on était bien dépourvus parce que personne à l'école ne nous a orientés, personne ne nous a dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ce gamin qui avait plein de problèmes et qui était dernier de la classe. » Voilà.
Ça me fait plaisir que tu aies partagé ça avec nous.
C'est bien Twitch en fait.
Mais ouais.
On dit plein de trucs.
Et en fait, tu sais, c'est ce qu'on disait sur ce média du temps long. En fait, c'est un média qui fait qu'à un moment, comme on rentre dans une espèce de zone de confiance entre toi et moi et avec les gens là, qui t'envoient plein d'amour et de force, là, on sent qu'on peut partager des choses plus intimes qu'on ne partagerait pas. Sur le plateau de France Info ou TF1.
Ouais, ça c'est sûr.
En plus.
Et puis j'irai pas parce que je me mets en danger, moi, à parler de ça. Je me mets en danger d'être dans cet état-là. Ouais. Et.
En tout cas, c'est très très beau.
Bon, bah écoute. En tout cas, c'est très sincère.
Et je pense que. Y a plein de gens ici qui vivent ou ont vécu des histoires familiales parfois compliquées et à qui témo. Se rendant compte que y a d'autres histoires compliquées ont dû faire du bien aussi quoi.
Bon, tant mieux.
Je trouve ça un des intérêts de cette plateforme quoi. Voilà. On va passer à autre chose. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire ? On va regarder la bande annonce.
On a de Medellin qui sort le 2 juin.
C'est trop long. C'est bon, t'es validé, Franck. T'inquiète. Je veux pas t'embêter trop longtemps. Ça fait déjà 2h29. Moi, j'aimerais qu'on termine sur peut-être du projet. Si t'as envie d'en parler. Quel est, là on a parlé de tout ce que tu as fait ces derniers mois, c'est juste ouf. On va peut-être revenir pour ceux qui n'étaient pas au début du stream d'un mot sur Le Salaire de la Peur, qui est donc le prochain long métrage où tu apparais cette fois en comédien dans le rôle principal, film mythique. Donc ce sera sur Netflix.
Oui.
Donc ça va être très attendu parce que Le Salaire de la Peur c'est un film mythique. Donc ça sortie, tu sais pas encore trop.
Non, c'est pas calé, mais voilà. Je pense en tout début d'année.
C'est tourné.
C'est tourné, ça sera bien.
Et sinon, projet, envie, nouvelle saison de valider. Enfin, qu'est-ce qui est dans les
tuyaux ? Écoute, j'ai plein de trucs dans ma tête, mais
c'est un peu secret pour l'instant.
Ouais, c'est un peu tôt. Puis tu sais comment, alors pour dire tout aux gens, évidemment qu'il y a des trucs qui se préparent, mais il y a ce qu'on appelle dans notre métier les temps de communication.
Ah oui, oui.
Tu vois ?
Ok.
Et le temps de communication, il est consacré à Medellin qui est un film dans lequel j'ai mis beaucoup de mon énergie et
tu disais 2 ans au moins 2 ans
ouais,
de ta vie
ouais c'est 2 ans c'est 2 ans de ta vie ouais, ouais un projet comme ça ouais
j'ai hâte
merci ça me fait plaisir j'espère que celui-là tu vas le regarder en une fois
oui je vais faire ce qu'il faut j'irai s'il faut je dormirai pas avant France Info mais j'ai noté c'est le 2 juin
Prime Video
voilà. Attends, je voulais te dire une dernière chose. Oui, est-ce que. Donc, tu as quand même une vie intense chargée, pleine de projets, de comédiens, de réalisateurs, de scénaristes aussi. Tu fais du sport quand tu peux. Justement, quand tu as un petit peu de temps pour toi, mais rien que pour toi, est-ce que d'abord tu as du temps parfois rien que pour toi ? C'est-à-dire du temps qui n'est pas consacré à ta passion pour le travail et le cinéma notamment ? Ou pas ? Est-ce que tu as un peu de temps pour toi ? Et si oui, tu fais quoi ?
Écoute. Je pense lié à tout ce qu'on s'est raconté sur la vie et le fait que c'est assez récent pour moi le succès, je suis quand même dans une course à travailler, à la réussite. J'ai eu beaucoup de chance, mes premiers projets ont marché et du coup tu deviens un peu accro au succès derrière, tu vois. Et puis j'ai surtout la chance de faire de mon métier ma passion. J'ai une chance énorme. J'écris des films, je joue dans des films. Tu sais, ce moment, il est incroyable, le moment où tu écris sur ton ordinateur. Et bien là, on est à Medellin, et puis la voiture arrive, les narcos arrivent, et la voiture explose, et là Ramzi. Et puis, un an après, ce que tu as imaginé dans ta tête se fait. C'est évidemment ce qui me procure le plus de plaisir, et donc c'est l'essentiel de ma vie, en fait. Tu vois, je dois avouer que l'essentiel de ma vie, c'est mon travail. Et évidemment, j'ai ma bande de potes, dont deux nous ont appelés là pendant.
C'est drôle.
Voilà, j'ai ma bande de potes, j'ai ma vie, mais
il y a pas grand place pour autre chose, quoi.
Mais c'est déjà beaucoup de choses.
Non, mais je veux dire, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est ça.
Ouais, bah c'est ouais, c'est mes potes, ma vie, mon travail, et puis aller m'entraîner quand je peux, parce qu'en fait, le temps compte, et plus on vieillit, plus le temps compte. Finalement, ça m'est arrivé sur le tard, moi, le succès. Et donc, c'est récent que je gagne de l'argent.
Enfin, quoi que les... T'avais quel âge quand les
j'avais, caméras sortent? J'avais plus de 30 ans, mais tu sais... Ouais.
C'est tôt quand même,
Oui, ouais. Enfin, c'est tôt. C'est juste que c'est un premier film. Tu gagnes pas beaucoup d'argent quand tu fais ton premier film. Okay. Et puis très vite, j'étais dans le truc de... Ok, maintenant que je suis là, il va falloir faire avec moi, les gars. Donc, comment je rebondis? Comment je lâche pas, quoi? Donc, et puis quelqu'un disait, est-ce que t'as peur que ça s'arrête? Ben, on a toujours peur que ça s'arrête. Et il y a une solution, c'est le travail, tu vois. Et d'avoir toujours un coup d'avance. Que je me dis, même si y a un de mes films qui se plante, de toute façon, je suis en train de préparer celui d'après tout le temps. Et puis là, pour l'instant, j'ai pas fait d'échec, mais j'ai le droit maintenant à l'échec, tu vois.
Ouais.
Ce qui est compliqué, c'est quand ton premier film, tu le plantes. En général, tu peux pas refaire un autre. Et quand ton deuxième tu le plantes, ça veut dire que t'as pas confirmé le premier, puis ça peut être dur. Uh-huh. Ça y est, je suis sorti de ce truc là, j'ai le droit à l'erreur maintenant, donc je respire. Mais surtout j'ai rêvé longtemps, moi, j'ai même pas osé rêver d'en être à ce point là mais maintenant que j'y suis,
ouais, tu veux le vivre, ce rêve,
en fait. C'est un kiff, tout ça, tu vois. Donc quand les gens me disent, mais tu t'arrêtes pas, mais c'est un tel kiff, en fait. C'est un tel kiff que Netflix te dit, alors Franck, quand est-ce qu'on fait un truc ensemble? Et Prime Video te dit, alors quand est-ce qu'on fait un truc? Et puis Maxime Sada, le patron de Canal+, qui dit, Franck, allez, fais-nous une saison 3 de Validé. Mais c'est incroyable, en fait.
Bah ouais.
Et maintenant que je suis là, il n'est pas question d'arrêter. Donc, ouais, c'est l'essentiel de mon temps.
J'avais une question très indiscrète, mais je ne te la poserai pas. Je te la poserai une autre fois parce que je t'en ai posé trop pour ce soir.
Okay.
Franck, du fond du cœur, merci.
Merci à toi, merci.
On s'était jamais... On s'était peut-être croisé il y a très longtemps, peut-être à Canal, peut-être.
Ouais, probablement.
Jamais, je pense qu'on s'était jamais vraiment rencontré, parlé. T'es venu très simplement, alors que t'es un emploi du temps de fou. Ça fait longtemps qu'on se parle de ce stream, voilà. Et je vais vous dire un truc qui est super touchant, c'est que on a échangé plusieurs fois ces deux dernières années avec Franck pour ce stream. Et puis Franck, la semaine dernière. M'envoie un message que je pourrais vous lire, qui était en gros, je rentre de Colombie, j'ai été pas mal absent, j'ai pas mal bossé, j'ai un tout petit peu de temps, est-ce que tu veux qu'on fasse ce stream? Et j'ai dit, la semaine prochaine. Et donc c'est venu de toi,
ouais.
Parce que moi j'aurais pas osé t'embêter à nouveau. Donc pour ce petit message et pour tout ce que tu nous as donné ce soir, parce que tu as parlé à cœur ouvert.
Ouais, ça je te confirme. Mais c'était le jeu.
Ouais. Ça a été vachement apprécié.
Et puis, c'est aussi parce que c'est toi et que ta bienveillance est nationalement connue. Donc, je me suis senti en sécurité tout de suite. Voilà. Donc, c'est très étonnant. J'ai pas du tout vu l'heure passer.
T'as vu en 2h30. Ouais.
On a parlé de plein de trucs. J'ai jamais parlé autant, je crois. Manuel Ferrara est là. Manu.
Ah, c'est possible.
On t'embrasse.
C'est possible.
En direct de Los Angeles.
Merci pour tout, gentil message. C'est incroyable. Moi, j'adore ces moments-là. Tu vois, quand on passe un moment où on se dit plein de choses, voilà, où nos échanges et nos réflexions et le fait de s'ouvrir et de raconter une histoire parlent aux gens aussi et leur permettent aussi, je pense, d'avancer aussi, de réfléchir à leur propre situation.
Et si ça peut servir à ça, c'est merveilleux.
Je pense que ça s'est passé à plusieurs moments ce soir. On va faire un dernier truc que tu vas aimer. Tu connais le principe du raid? Ça, c'est magique. À mon avis, tu connais déjà, mais je te rappelle. Tu vois, là, on est avec 4000 personnes. Et en fait, le raid, c'est on va basculer nos 4000 viewers sur une autre chaîne Twitch ça permet en fait, alors moi j'aime bien, on appelle ça faire un raid,
okay.
En fait, mais surtout c'est un raid bienveillant.
Okay.
En fait, c'est comme si à la fin du 20h de TF1, je prends souvent cet exemple, il y a 5 millions de téléspectateurs, et le présentateur disait « Oh, il y a un super doc sur France 5, allez-y, boum !» Et il clique, et les 5 millions basculent sur France 5. Évidemment, la télé, c'est pas possible parce que
il
y a des enjeux économiques.
Bien sûr, mais
nous,
là on peut.
Et nous on fait ça. Et donc ce que je fais en fait, c'est que je demande aux gens qui nous regardent de faire des propositions.
On va raid qui ?
Voilà. Okay. De streamers, de streameuses, plutôt. Ah bah il y a quelqu'un que je connais là. S'il est en live, ça m'intéresse. Alors plutôt des streamers et des streameuses qui n'ont pas encore beaucoup de viewers, histoire de les mettre en lumière, tu vois, de faire découvrir leur travail. Okay. Là par exemple, j'ai une proposition de quelqu'un que je connais un petit peu, mais qui à mon avis. Je vais essayer de le trouver. Ouais, il est en live. Oh, trop bien, trop bien. Alors, je ne dis pas pour l'instant, ça va être la surprise. Mais j'ai vu la proposition dans le chat. Ok, je suis très content. Mais tu vois, là, il y a 5 viewers sur la chaîne de ce garçon. 5. Voilà. Oh, trop bien.
Manu. Merci, mon frérot.
Et tu vois, donc ça, c'est quelqu'un que je connais très, très bien. Je vais te raconter l'histoire. Et il y a 5 viewers. Et il y a 4000 personnes qui vont basculer sur sa chaîne. Les amis, avant de faire ce raid, voilà, que je vais charger tout de suite, je vous remercie encore une fois parce que je me suis régalé. Voilà. J'ai adoré cet échange avec Franck et j'ai vu que vous aussi, de toute façon, quand quelqu'un vient ici parler sincèrement de ses passions, de ce qui l'anime et parfois de ses doutes aussi, c'est toujours des moments très très forts et t'as vraiment joué le jeu.
Écoute, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai compris. Twitch ce soir, j'ai compris, on l'a dit tout à l'heure, j'étais passé vite fait dans le Twitch de Manu, dans le Twitch de Cyril Gann, sans vraiment m'en rendre compte. Là on vient de passer presque 3 heures ensemble. J'ai jamais parlé autant publiquement de ma vie en fait, tu vois, ça fait 3 heures qu'on discute et je viens de comprendre tout cet intérêt. Si. Et merci pour, alors évidemment ce qui est frustrant, c'est qu'on a vu plein de messages extrêmement cool et touchant et j'ai reçu beaucoup d'amour, merci beaucoup. J'essayais de lire parfois, en tout cas merci, c'était vraiment très cool.
Dites, alors allez vite sur la chaîne de Cheat Meal Hero, on est parti, sur la chaîne d'Eric, et dites-lui de pas cut son stream.
Okay.
Dites-lui,
merci beaucoup pour ce raid.
Vous lui dites, hein, ok, je charge le raid. On va sur la chaîne, les amis, de Cheat Meal Hero, alias Eric, qui passe de temps en temps faire la cuisine, vous savez, l'émission du vendredi. Donc, il était en train de cut son stream. Dites-lui bien de ne pas partir. Je charge le raid. Voilà. Il va repartir pour une petite demi-heure ou une petite heure. C'est bon, il a vu, il va pas cut. Le raid est en train de charger. Voilà. Je suis sûr que si Franck avait du temps dans sa vie, ce qui n'est pas le cas, je suis sûr qu'il deviendrait streamer. Voilà, parce que pour être ici, il faut aimer partager. Et
ouais.
C'est ton cas.
Je viens de comprendre. Ma seule déception, c'est qu'on n'ait pas regardé la bande-annonce.
Ah, de Medellin. Ah merde, je pensais l'avoir fait. Ah, mais je l'ai vu tellement de fois.
Bon, les gens la regarderont.
Les amis, le raid part là. Faites coucou à mon ami Eric Chitmiliro, c'est un mec formidable. C'est un passionné de cuisine, mais pas seulement de création. C'est un gars super. On se retrouve demain matin pour la matinée Étienne pour les journaux, puis on débriefera ce super moment avec Franck, bien sûr. Le raid part dans 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Et puis encore un grand merci, Franck.
Merci à vous, merci
à
tout le monde.
C'est parti pour le raid. Go ! Et bonne soirée à tous.